7h, 9h.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Bonjour à tous, nous sommes le lundi 26 novembre et après un week-end marqué par les violences, notamment à Paris, Europe 1 a voulu comprendre les origines d'un malaise qui s'amplifie. C'est pourquoi toute cette semaine, nous allons poser nos valises et nos micros à Mourinx, dans les Pyrénées-Atlantiques. Mourinx est une ville dite périphérique, comme des milliers d'autres villes en France. Une ville de nationale, de départementale, une ville qui vieillit, 7000 habitants. 65% de logements HLM, un taux de chômage au-dessus de la moyenne, pas de gare ni de réseau de bus et une forte mobilisation des gilets jaunes. Pourquoi ? C'est ce qu'on va tenter de comprendre dès 7h15 avec Carole Ferry qui sera toute la semaine à Mourinx et puis à 7h45. Nous serons en interview en direct de cette commune avec Patrice Laurent, le maire. 7h20, direction un autre territoire en proie lui aussi à un malaise social, l'île de la Réunion, complètement paralysée depuis maintenant une semaine. Sur ce paradis miné par le chômage, les gilets jaunes ont mis le feu aux poudres. Dossier à suivre dans Europe 1 va plus loin. 8h15, Audrey Crespo-Mara reçoit la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Le gouvernement a-t-il bien saisi ce malaise de nos concitoyens? Quelles sont ses réponses? Interview à suivre. Et puis on l'a dit, c'est aujourd'hui un peu comme un premier jour d'école pour nous. Première matinale dans nos tout nouveaux studios du 15e arrondissement de Paris. Nous sommes très heureux de vous accompagner chaque jour. Une nouvelle semaine commence avec vous. Vous émergez, vous sortez du lit. On est déjà lundi matin. C'est cool de vous retrouver. Bon réveil à tous.
Nous sommes le lundi 26 novembre. Merci d'avoir choisi Europe 1 pour vous accompagner. Et il est 7h01. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nico Saliagas.
Bon réveil à tous. Hélène Zellani pour Le Journal. Bonjour Hélène.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
À la une ce matin.
Cette grande question, comment répondre à la colère des gilets jaunes? Annonce d'Emmanuel Macron attendue demain, nous verrons ce qu'espèrent ces Français en colère. Dès aujourd'hui, présentation du projet de loi sur les mobilités pour améliorer les déplacements au quotidien, avec notamment un forfait de 400 euros par an pour les salariés. Et puis Europe 1 vous révèle la très mauvaise place de la France en termes de mortalité des bébés avant un mois. Nous sommes 23e sur 28. Notre spécialiste Mélanie Gomez nous dira pourquoi.
Europe 1.
Les gilets jaunes se retrouveront-ils dans la rue pour un acte 3 de leur mouvement? C'est un peu la confusion. Hier, un compte Facebook présenté comme une page officielle appelait à une nouvelle manifestation parisienne samedi. Mais le représentant du mouvement en région toulousaine a démenti, parlant de manipulation, de récupération. Selon lui, les décisions seront prises en fonction des annonces d'Emmanuel Macron demain. Le chef de l'État, qui dit vouloir un pacte social, va tenter de calmer la grogne de ces Français en colère. Alors justement, quelles sont leurs attentes? Pierre Herbulot leur a posé la question pendant la manifestation de ce week-end à Paris.
Son gilet jaune, Idir ne l'avait jamais porté avant le début du mois. Depuis 15 jours, c'est le vêtement qu'il met le plus. Pour le ranger définitivement dans son coffre, il n'attend qu'une seule chose d'Emmanuel Macron.
Je pense qu'il ne serait pas déplacé de proposer une hausse des salaires à un SMIC à 2000 euros net par mois. Et là, on redonne le sourire aux Français. On dit vive Macron, vive la France, vive la République. Et tout se passe bien.
Comme lui, la plupart des gilets jaunes demandent moins de taxes, à commencer par celles sur les carburants, et donc plus de pouvoir d'achat. Muriel a déjà écrit le discours du président.
Madame, votre pouvoir d'achat va être garanti. Vous n'allez plus être à découvert de 500 euros tous les mois dès le 10 du mois. Et vous allez vivre dans un monde idéal. S'il nous annonce des choses comme ça, je veux bien.
D'autres se méfient des promesses à venir. C'est le cas de Marc. Ce jeune retraité préférerait un changement de cap.
Il faut qu'il donne aux Français l'espoir que quelque chose peut éventuellement changer sous son règne.
Enfin, une partie des gilets jaunes n'attend rien d'autre d'Emmanuel Macron.
Arrêtons les macroneries.
Que l'annonce de sa démission.
Pierre Herbulot. De démission, il n'en sera pas question évidemment, mais hier, depuis Bruxelles, Emmanuel Macron a dit vouloir apporter une réponse claire aux classes moyennes et laborieuses.
Et puis un peu plus d'une centaine de personnes ont été placées en garde à vue après les violences qui ont émaillé lors des manifestations de samedi à Paris.
Oui, d'importants débordements qui ont fait 24 blessés, dont 5 parmi les forces de l'ordre. Dans le quartier des Champs-Élysées, on déplore d'importants dégâts matériels et les équipes de nettoyage ont travaillé tout le week-end pour redonner son apparence habituelle à la plus belle avenue du monde. Des pavés descellés, des feux tricolores arrachés, des terrasses vandalisées. Toutes les boutiques ont dû fermer samedi et c'est un gros manque à gagner pour les commerçants à l'approche de Noël. Claudia Bertram.
Près de la place de l'Étoile, où les affrontements ont été les plus violents, les stigmates sont toujours visibles sur les magasins.
Vitrines brisées, graffitis sur les devantures. Ce dimanche, les commerçants ont pu rouvrir leurs portes, mais ils ne pourront pas compenser le manque à gagner. Une perte de plusieurs centaines de milliers d'euros, par exemple, pour ce responsable d'une enseigne de prêt-à-porter.
Jamais toute une journée, la boutique n'a été fermée pour des raisons de manifestation, que ce soit Coupe du Monde. C'est la première fois depuis 15 ans, parce que la boutique elle a 15 ans, qu'on ferme les portes de la boutique. Rattraper un samedi, c'est pratiquement impossible.
Impossible de rattraper un samedi, surtout à un mois des fêtes de fin d'année. Et alors que le Black Friday et ses super soldes promettaient des recettes exceptionnelles chez tous les commerçants, on redoute maintenant une nouvelle journée d'action samedi prochain. Au drugstore Publicis, on nous confie même redouter une semaine catastrophique pour le chiffre d'affaires.
Claudia Bertram, et à propos des dégradations, l'échangeur du Muy dans le Var a été rouvert, celui de la Ciotat dans les Bouches-du-Rhône en partie, celui de Virsac en Gironde reste en revanche fermé.
Europe 1, il est 7h05.
En attendant les annonces d'Emmanuel Macron, plusieurs mesures pour favoriser
cette
les
loi,
transports moins polluants seront annoncées aujourd'hui.
Le projet de loi d'orientation sur les mobilités sera en effet présenté ce matin en Conseil des ministres, après des mois de report, notamment à cause de la réforme ferroviaire. Alors qu'y a-t-il dans cette loi, Aurélien Fleureau ?
Cette loi, ce sera une boîte à outils pour les élus. La formule est d'Elisabeth Borne, la ministre des Transports. L'objectif sera d'améliorer l'organisation des déplacements du quotidien en permettant à chaque région d'avoir un peu plus la main sur la gestion des transports. Cela passera par exemple par le développement du covoiturage avec la mise en place d'un forfait mobilité de 400 euros par an pour les salariés, ou encore par le déploiement des expérimentations de voitures et de navettes autonomes. Cette loi a bien sûr des ambitions environnementales, avec par exemple un plan pour tripler l'usage du vélo d'ici 2024, de multiplier par 5 les ventes de véhicules électriques d'ici 2022, ou encore le déploiement de zones à faibles émissions. Une dizaine de métropoles se sont engagées à créer des territoires où les véhicules les plus polluants seront interdits. Une loi présentée avec plusieurs mois de retard, mais qui arrive à point nommé pour apporter quelques réponses à la colère des gilets jaunes, notamment dans les zones rurales.
Aurélien Fleureau, cette loi arrivera au Parlement au printemps prochain et les gilets jaunes devraient apprécier la décision d'abandonner les péages urbains. Aucune grande ville n'en voulait. Le remplaçant de Manuel Valls s'appelle Francis Choix. Le maire d'Evry, soutenu par La République En Marche, remporte les élections dans la première circonscription de l'Essonne. 59% des voix contre 41% à son adversaire de la France Insoumise.
Europe 1.
Dans un instant, la suite du journal avec cette enquête dévoilée par Europe 1 sur la mortalité néonatale. La France est parmi les pays les moins bien classés d'Europe. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Il est 7h09, votre matinale info, Nicolas Saliagas.
La suite du journal avec Hélène Zélani est aussi étonnant que cela puisse paraître. La France fait partie des pays européens les moins bien classés en termes de mortalité néonatale.
Oui, c'est-à-dire les décès des bébés dans le premier mois qui suit leur naissance. Nous sommes 23e sur 28, selon l'enquête européenne coordonnée par l'INSERM. Étonnant en effet, car on dit souvent que nous avons le meilleur système de santé au monde. Pourtant, nous nous retrouvons dans les dernières places, mais ça s'explique, Mélanie Gomez.
Ces chiffres, c'est littéralement la honte, m'a confié un chef de service de gynécologie d'un grand CHU français. Et ce qui serait le plus énervant, c'est surtout que nous sommes le seul pays d'Europe qui ne progresse pas. Cette enquête, elle a lieu tous les 5 ans. Et si on regarde la dernière, depuis 2010, chez nous, rien n'a bougé. À côté d'autres pays comme les Pays-Bas ou l'Angleterre se sont améliorés. Et nous, sur ce critère de la mortalité des bébés avant un mois, on est passé de la 17e à la 23e place. En réalité, heureusement, ce sont des chiffres qui restent assez bas. Ça concerne un peu plus de 2 naissances sur 1000. Mais pourquoi y en a-t-il plus en France qu'ailleurs ? Selon Béatrice Blondel de l'INSERM, l'une des hypothèses qui n'explique pas tout, c'est que certains parents, même quand leur fœtus est condamné, préfèrent aller jusqu'à la naissance.
Est-ce qu'il y a eu un changement d'attitude des parents dans les situations d'interruption médicale de grossesse qui préfèrent avoir un enfant né vivant et qui décédera ? Un décès accompagné dans les heures qui suivent la naissance.
Alors, autre hypothèse pour expliquer une petite partie de cette mortalité, les médecins chez nous préfèrent ne pas faire d'acharnement thérapeutique sur les très grands prématurés. Donc, on les laisse partir. Dans d'autres pays, on essaye parfois de les sauver à tout prix, malgré de lourds handicaps.
Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1, et puis une enquête journalistique internationale dévoile la faiblesse des contrôles sur les dispositifs médicaux dans le monde, notamment en France. Autrement dit, les prothèses de genoux, de hanches, les implants mammaires et autres pompes à insuline, baptisées Implant Files. L'enquête montre que ces incidents ont doublé en 10 ans. On va y revenir dans le journal de 8 heures.
Un mot de tennis, la France a fait ses adieux à la Coupe Davis sur une note plutôt amère. Hélène.
Et oui, défaite face à la Croatie 3-1. L'équipe de Yannick Noah n'a pas réussi à garder son saladier d'argent. C'est désormais Amélie Mauresmo qui dirigera l'équipe de France de Coupe Davis. Sa sœur, comme il la surnomme avec affection, et il n'a aucun doute sur ses talents.
Bien sûr que ce sera une super capitaine. Amélie connaît le tennis, connaît le haut niveau. Elle a été numéro 1, j'ai jamais été numéro 1. Elle a entraîné Murray qui est numéro 1, j'ai jamais entraîné un numéro 1 mondial. Elle sait comment ça se passe, bien sûr. Puis si elle a besoin de 2-3 clés, je vais essayer de répondre à ses questions. C'est bon, c'est pas les capitaines qui se voient, c'est les potes. Amélie, c'est ma sister. Donc ouais, je pense qu'elle sera top.
Voilà, c'est sa sister Yannick Noah avec Corinne Boulot. Et puis hier soir, pour la dernière rencontre de la 14e journée de Ligue 1, Florian Thauvin a cartonné avec l'OM. Il a réussi un triplé à Amiens. Score final 3-1, ce qui permet aux Marseillais de se hisser à la 5e place du classement.
Merci sister Hélène Zélani. L'actualité vous interpelle, on attend vos réactions sur le répondeur du 7-9. Pas mal de réactions aussi depuis la venue dans cette matinale de Jérôme Commandeur. Ça se passe comment de revenir dans un repas que vous découvrez avec nous, parce que ce sont des nouveaux locaux, Jérôme?
Oui, ça me fait très plaisir, je croise plein de vieilles connaissances, c'est toujours un plaisir d'être à Europe.
Pourquoi vous ne reviendrez pas faire une chronique de temps en temps?
Pourquoi pas avec plaisir, j'ai la chance de faire plein de choses, mais il faut faire rentrer ça au chausse-pied, comme dit l'expression.
De la scène, du cinéma, exactement. Mais bon, vous savez que pour vous ici, la taille sera toujours la même au niveau du pied. Merci beaucoup.
Merci cher Nico.
Jérôme Commandeur.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Et à 7h12, c'est l'édito éco de Nicolas Barré.
Nicolas Barré, directeur de la rédaction du journal Les Échos. Faut-il interdire la marque Huawei? Est-ce que je l'ai bien prononcé?
Huawei.
Enfin, j'y arrive pas, je ne suis pas chinois, enfin, dans la prononciation. En tout cas, tout le monde connaît cette marque du fabricant chinois de smartphones et d'équipements pour les télécoms. Les États-Unis font pression pour interdire cette marque et la France réfléchit.
Oui, car Huawei est soupçonné d'espionnage pour le compte des autorités chinoises. Et ce qui inquiète les pays occidentaux avec l'arrivée de la 5G, eh bien, c'est que Huawei infiltre le cœur des réseaux de télécommunications. Les États-Unis et l'Australie l'ont donc banni de la construction des réseaux 5G. Washington tente de convaincre ses alliés. La France se méfie du chinois. Huawei a été déjà écarté de la 4G en Île-de-France, là où se trouvent les lieux de pouvoir, les sièges des sociétés les plus sensibles. La méfiance est grande, même s'il n'a pas été prouvé, peut-être pas encore, que Huawei ait installé des composants espions dans ses équipements.
Alors, se pose une question un peu plus globale. Est-ce qu'on doit se méfier de notre téléphone portable, de notre smartphone,
oui,
Nicolas?
Oui, et d'ailleurs, de toutes les applications qui sont installées dessus. Je vous donne un exemple. Si vous utilisez l'application chinoise WeChat, et moi ça m'arrive, eh bien sachez que WeChat peut copier toutes vos données, vos comptes, vos photos, vos messages sur des serveurs logés en Chine et savoir en permanence où vous êtes. Alors vous allez me dire, c'est pareil avec les applis américaines, sauf que WeChat, en tant que société chinoise, doit tenir ses données à la disposition des autorités chinoises. C'est écrit noir sur blanc dans les conditions de service. Bref, nous sommes déjà espionnés en permanence et en l'occurrence, au profit d'un état policier, d'où l'alerte des autorités américaines. Ce qui inquiète avec Huawei, c'est que les capacités d'espionnage soient indétectables dans les réseaux, et si les Américains, qui ne sont pas les derniers à espionner, s'en préoccupe, c'est bien que la menace est réelle.
Nicolas Barré, l'édito Echo, c'est tous les jours à 7h10 sur Europe.
Et à 7h14, direction Mourinx, dans les Pyrénées-Atlantiques, pour retrouver Carole Ferrinikos.
Cette semaine, Europe 1 s'installe à Mourinx pour tenter de comprendre les origines du malaise social exprimé par les Gilets jaunes. Mourinx, c'est une ville dite périphérique de 7 000 habitants, un taux de chômage de 22%. Pas de gare, ni de réseau de bus. Et chaque jour, Carole Ferry, vous allez mettre un coup de projecteur sur les difficultés que rencontrent les gens au quotidien. Qui avez-vous rencontré ce matin ?
Bah écoutez, je vous emmène à la rencontre de Noël. C'est un personnage, hein. Il a 70 ans et figurez-vous qu'il vient d'ouvrir une épicerie ici à Mourinx qui fait également des pots de pain. Ancien chanteur, ancien vendangeur, ancien croque-mort, la vie de Noël a été bien remplie, on peut le dire, mais aussi très chaotique. Alors aujourd'hui, il n'a que 800 euros de retraite avec la pension de réversion de son épouse. Trop peu, surtout avec la hausse de la CSG, de l'électricité, bref, du coût de la vie. D'où l'idée de cette épicerie. Mais à 70 ans, eh bien, c'est un vrai défi. Pourtant, la mairie l'aide, hein, elle veut voir vivre les commerces dans le quartier. Alors le loyer est très bas, mais ça ne suffit pas.
Je devais avoir un emploi à mi-temps, mais ça ne s'est pas fait parce que le patron ne pouvait pas, quoi. Donc ça a été une déception pour moi. Alors j'ai créé mon propre emploi. Ce qui m'a motivé aussi, c'est de monter l'épicerie fine autour, d'aller voir les gens sur place. Exemple, le fromage de vache, je vais derrière Mauléon, Pays Basque, et c'est une petite famille, ils ont 24 vaches. Ils tiennent bon. Ça marche, mais ça ne marche pas assez pour me sortir un salaire. Alors soit j'arrête, soit je continue. Et donc, il est important que je passe à une vitesse supérieure.
Vous voulez vous développer? Vous avez 70 ans, les banques, elles vous disent quoi?
C'est un peu frileux, c'est-à-dire qu'on ne veut pas lui dire non à ce brave Noël. Mais on va pas lui dire oui non plus.
Parce qu'on peut pas, parce qu'il a 70 ans.
Et voilà, donc c'est pas un coup de folie, mais quelque part, des fois c'est dur. Des fois je me bouscule le corps aussi. Mais en fait, je dirais, tant que tu peux, tu peux.
C'est positif, mais pourquoi ça ne marche pas assez, Carole Ferry? Pourquoi il n'y a pas assez de clients, qu'on comprenne?
Écoutez, en fait, pour s'en sortir, il faudrait qu'il vende 150 baguettes par jour. Il en vend 3 fois moins. Pourquoi? C'est compliqué, parce qu'en réalité, les habitants du quartier le soutiennent. Comme Corinne, elle vient tous les midis acheter sa baguette.
Mmh. Je viens tous les jours parce que pour moi, c'est très important, les commerces de quartier. Pour moi, c'est très important de faire 100 mètres à pied, de ne pas utiliser ma voiture et de venir chercher mon pain ici, chez Noël. Et la première chose qu'on s'est dit, avant de savoir si c'était bon ou s'il était gentil, on s'est dit, c'est chouette.
Et après ?
Et après, on s'est dit, on a raison, c'est vraiment bien.
Ils sont patients avec moi parce que des fois, je les retiens, ils sont emprisonniers.
C'est vrai ? Ouais, c'est vrai, ils parlent beaucoup.
C'était quoi votre vie avant Noël ?
Je suis un baladin. Chanteur, puis la scène, quoi.
Vous jouez encore ? Vous chantez encore ?
Oui, oui.
Vous nous en chantez une, là ?
Eh ben, allons-y. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce matin, je viens mendier mon pain, mon eau, mon huile.
Voilà, chanter pour mettre de côté, ne serait-ce que quelques instants, les problèmes du quotidien. Et Noël qui tente avec difficulté d'améliorer son quotidien malgré l'aide de la mairie. Nous serons d'ailleurs avec le maire de Mourinx tout à l'heure, Patrice Laurent, dans quelques minutes à 7h45. Une semaine à Mourinx, à 30 km de Pau, avec vous, Carole Ferry, c'est tous les jours à 7h15 sur Europe 1.
Et il est 7h17, restez avec nous sur Europe 1, à suivre Nico Saliagas.
Dans un instant, je vous emmène à 9000 km de Mourinx, sur une île aux allures de carte postale, et pourtant en proie depuis une semaine à des violences urbaines d'une ampleur inédite. À La Réunion, le mouvement des Gilets jaunes a réveillé un profond malaise, on vous dit tout, dans Europe 1, va plus loin dans quelques instants, à tout de suite.
Europe 1. Et il est 7h20, l'essentiel de l'actualité, Nico Saliagas.
L'affronte des gilets jaunes, Emmanuel Macron veut apporter une réponse économique, sociale, mais aussi culturelle aux classes moyennes et aux classes laborieuses. En revanche, pas question de revenir sur les hausses des taxes sur les carburants. Ce matin, Conseil des ministres avec la présentation du projet de loi sur les mobilités. L'idée d'instaurer des péages urbains est abandonnée. Un audit lancé chez Renault sur les rémunérations de Carlos Ghosn. Le PDG du constructeur est toujours en détention au Japon. Il dément catégoriquement toute malversation. Et puis un mot de météo sous le signe du gris et de l'humidité un peu partout dans le pays. Quelques éclaircies le long de l'Atlantique, température de 4 à 15 degrés cet après-midi.
Europe 1. Nico Saliagas, Europe 1 va plus loin, direction l'île de La Réunion ce matin, embrasée par la colère des Gilets jaunes.
Et depuis le premier jour des manifestations des Gilets jaunes, le 17 novembre dernier, c'est une île complètement paralysée. Et si le couvre-feu a été levé hier, toute la semaine dernière, les routes ont été bloquées, les stations-service ont été mises à l'arrêt. C'est en conséquence tout le tissu économique de l'île qui est en danger, des magasins pillés, des affrontements entre casseurs et forces de l'ordre. Ce matin, les écoles de l'île restent fermées. Bonjour Gwendoline Desbonneaux.
Bonjour Nikos.
L'envoyé spécial d'Europe 1 à La Réunion. Gwendoline, c'est simple. Le mouvement des Gilets jaunes a plongé l'île dans la pire crise qu'elle ait connue depuis les années 90.
Oui, le mouvement des Gilets jaunes ici, c'est une étincelle qui embrase un malaise social profond. De chiffres assez frappants, à La Réunion, 40% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté et plus de la moitié des moins de 25 ans sont au chômage. C'est une poudrière, tout le monde s'accorde là-dessus. Près du port industriel, nous avons rencontré Kevin et Joe. Ils habitent des quartiers durs dans l'ouest de l'île.
Moi, des fois, je fais livrer des pizzas. Voilà, c'est au noir et pour survivre, on va dire.
Oui, on cherche du travail. Peu importe le secteur, mais du boulot. Déjà, les entreprises cherchent des gens expérimentés. Et La Réunion, ils ne donnent pas la possibilité d'avoir de l'expérience, en fait.
Et comment vous faites pour survivre, ou alors, si vous n'avez pas de travail?
Madame, Dieu, franchement, vous êtes braconnier. Délire, vol, casse.
Braconnier, vol, casse. Joe reconnaît vivre de petits braquages. Il vend aussi un peu de zamal, le cannabis local. Pour lui, les pillages et les émeutes des premières nuits sont un moyen comme un autre pour se faire entendre.
Alors lui fait partie des plus défavorisés, Gwendoline, mais est-ce que ce mal-être, on le ressent aussi chez les jeunes un peu plus éduqués ?
Clairement, c'est une jeunesse qui a le sentiment de se heurter à un mur. Nicolas a 31 ans, beaucoup d'énergie. Et il y a quelques années, il a ouvert des crèches sur l'île ainsi qu'un service de location de voitures. C'était après avoir terminé ses études dans l'Hexagone, une licence puis une école de commerce à Toulouse. Son retour à La Réunion reste un souvenir douloureux.
Mon premier boulot, ça a été d'aller taffer au Black. J'étais sur les chantiers avec un bac plus 5. Donc je ne vous explique pas la boule au ventre que vous avez en vous disant « Vous êtes allé faire des études, soi-disant, pour ben, arriver à avoir un travail. Et quand vous arrivez ici, en fait, il n'y a rien. Si vous n'êtes pas le fils d'un tel, la famille d'un tel, vous n'avez pas un piston bien doré. Et c'est ça qui gangrène la Réunion au jour d'aujourd'hui. Hein. C'est ça qui m'a amené à créer ma propre entreprise. C'est-à-dire qu'en métropole, le salaire que vous avez en ayant BTS, vous avez le même salaire ici avec un bac plus 5.
Nicolas est fier aujourd'hui d'employer 13 salariés en CDI. Il s'est versé son premier salaire cette année, 1700 euros. Mais honnêtement, dit-il, je vivais mieux étudiant à Toulouse qu'entrepreneur à La Réunion.
Oui, parce qu'il faut dire aussi que la vie à La Réunion est plus chère que sur le continent.
Incontestablement, selon une étude de l'INSEE, les produits alimentaires sont 37% plus chers qu'en métropole, alors que les salaires sont moins élevés. C'est la double peine, disent les Réunionnais, et l'État en a conscience. Ça, c'est un autre motif de frustration. Tous les fonctionnaires bénéficient ici d'un bonus, une prime faite pour compenser cette vie chère. Elle atteint ici 53% du salaire. Cette mesure a été prise dans les années 50 pour encourager les fonctionnaires de métropole à s'installer en Outre-mer. Aujourd'hui, elle est vécue à La Réunion comme une profonde injustice.
Mmh. Et tout ça forcément a des conséquences sur le vivre ensemble, si cher aux Réunionnais. Est-ce qu'à travers ce mouvement des Gilets jaunes, Gwendoline, on sent qu'il se fissure le vivre ensemble ?
C'est un sujet tabou, mais c'est le cas. Il y a une fracture entre les créoles et ceux qu'on appelle ici les oreilles, c'est-à-dire les blancs venus de métropole qui s'agrandit. Sur les barrages de Gilets jaunes, voici des mots que l'on entend fréquemment.
Laissez l'emploi au rayonné, laissez l'emploi au rayonné sur les barrages, madame. Toutes les voitures qui passent, toutes les infirmières qui passent, ce sont des filles métropolitaines, des garçons métropolitains. Les rayonnés à La Réunion, on n'a que les miettes. Les miettes, c'est pour nous.
Ce discours, François Caillé s'y oppose farouchement. Il est PDG du groupe Caillé, un des plus gros acteurs économiques de l'île. Sa famille originaire de La Rochelle est arrivée à La Réunion au 19e siècle. Aujourd'hui, François Caillé emploie 1400 personnes environ dans ses grandes surfaces et ses concessions automobiles. Et lorsqu'il recrute, il dit être confronté à un problème de formation.
C'est des embauches locales à 90%, hein, mais des fois, malheureusement, pour un certain nombre de postes de cadres intermédiaires, on n'arrive pas à trouver localement des gens formés, capables de prendre ces postes-là. On est obligé de les chercher en métropole. Donc à ce moment-là, on fait appel aux Réunionnais, mais ils ne veulent pas rentrer. Et on est obligé d'embaucher les oreilles. Et là, on se fait taper dessus, vous embauchez les oreilles, c'est pas bien. Mais il ne faut pas dire que les métropolitains piquent les boulot des créoles. Ça, c'est pas vrai. On vit ensemble depuis qu'on est petit, depuis qu'on est à l'école, etc., etc. Et il n'y a pas ces tensions raciales. Il faut essayer de préserver ça. Et c'est ce genre de mouvement, malheureusement, peut créer des tensions entre les communautés. C'est sûr et certain que ça va laisser des traces.
Ces paroles populistes l'inquiètent et comme beaucoup, il ne voit pas de solution évidente pour sortir de la crise. Il faudrait pourtant les trouver d'urgence, sous peine de voir La Réunion passer de l'éruption à l'implosion.
Et on retient ce chiffre, plus de la moitié des jeunes de moins de 25 ans sont au chômage sur l'île de La Réunion. Et justement à 8h15, Audrey Crespo-Mara recevra la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Quelles mesures pour relancer l'économie locale, pour trouver du travail pour la jeunesse? Merci Gwendoline Debonneau, envoyée spéciale d'Europe 1 sur l'île de La Réunion. Europe 1 va plus loin, c'est tous les jours sur notre antenne à 7h20.
Europe 1.
Il est 7h26.
À suivre l'innovation du jour avec Anissa Mbida. Une bonne nouvelle ce matin pour tous ceux qui ont mal au dos. On a peut-être la solution grâce à Anissa. Et c'est pas un massage. À tout de suite.
Il est 7h29.
Retrouvez l'innovation du jour avec EDF.
Et avec Anissa Mbida, Nico Seliagas.
Vous avez des problèmes de dos à cause d'un faux mouvement, à cause de charges lourdes dans votre travail, d'efforts répétitifs. Eh bien, jusqu'ici, il était impossible à réparer les disques du dos. Mais des scientifiques ont trouvé apparemment un moyen de nous redonner un dos complètement neuf. Vous êtes sûr ?
Oui, on a réussi pour la première fois à régénérer, à remettre à neuf les disques du dos abîmés. Et ça peut changer la vie de beaucoup de gens. Il faut savoir que 40% des maux de dos, les lombalgies, les sciatiques, les hernies discales sont liés à des disques usés ou des disques abîmés. Jusqu'ici, on se contentait de soulager avec des anti-inflammatoires ou avec de la kinésithérapie. Et bien désormais, on va pouvoir réellement réparer le disque.
Par quel moyen ? De la chirurgie, j'imagine, non ?
Pas vraiment. Hein. Ça va ressembler plutôt à une piqûre qu'on fait au cœur du disque qui va le repulper, lui redonner son pouvoir amortisseur. Et si le disque est vraiment mort, ben là, on va être capable d'en faire pousser un neuf à partir des cellules propres, les cellules de la personne, un peu comme on cultive de la peau pour les grands brûlés. Mmh. C'est un procédé qui vient d'être mis au point par des chercheurs de l'université de Pennsylvanie aux États-Unis. Les tests démarrent sur l'homme. Donc, pour la première fois, on va vraiment pouvoir guérir le mal du dos, le mal du siècle.
On le fait aussi pour les genoux, je crois, non ?
Oui, les cartilages.
Voilà, on injecte des
cellules souches pour réparer le cartilage.
Anissa Mbida, l'innovation qui a bon dos, c'est tous les jours à 7h25 sur Europe 1.
C'était l'innovation du jour avec EDF. Accompagnement, soutien financier avec les prix EDF Pulse. EDF met en lumière les startups qui inventent notre avenir électrique. Plus d'infos sur edf.fr.
Et tout de suite un coup d'œil à la météo avec Laurent Cabrol, Nikos.
Mon cher Laurent Cabrol, oui, du brouillard.
Oui, du brouillard, oui. Surtout des petites pluies, vous savez, c'est un temps. C'est pas sympa hein, pour commencer une semaine, je me mets à la place de tous nos amis. Bon, on a connu mieux que ça. Nous entrons dans une semaine pluvieuse au nord, un peu plus ensoleillée au sud. Et au fil des jours, les températures vont grimper sur la partie méridionale de la France. Mais aujourd'hui, il y a de la pluie à peu près partout. Et les meilleures chances d'éclaircies sont pour la Bretagne, sont pour les littorales de la Manche, le littoral méditerranéen, mais vraiment le rivage, hein, pas au-delà. Ouais. Sur la Picardie et sur le piémont pyrénéen, c'est-à-dire l'extrême sud, eh bien là, nous aurons beaucoup, beaucoup de pluie.
Merci.
Avec, il faut le savoir aussi, énormément de vent en Méditerranée.
Merci Laurent Cabrol. À tout à l'heure, juste avant le journal de 8h.
Novembre, il est 7h32.
Et le journal avec vous, Céline Kalman.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Bonjour Céline.
Bonjour Nikos, bonjour à tous. L'image de Paris, une nouvelle fois détériorée, vue de l'étranger. Les affrontements de samedi sur les Champs-Élysées ont fait le tour du monde. Les gilets jaunes qui démontent les pavés, des barricades en flammes, des vitrines brisées, des casseurs qui se sont invités dans le mouvement. Mathieu Bock a rencontré à Paris des touristes américains dont les proches étaient très inquiets.
Jamais je n'aurais cru que ça arriverait sur les Champs-Élysées. On pensait que ça se passait uniquement dans les banlieues, loin de Paris. Ça a été un gros événement. On a vu les images partout, même aux États-Unis.
Oui, c'est là que vit ma mère. Elle nous a envoyé des textos pour savoir si on allait bien, car elle a vu les images violentes à la télé. Elle a été rassurée quand on lui a dit qu'on n'y était pas.
Ashley et Andrew, micro-Europe 1 de Mathieu Bock. Les heures ont fait, selon un dernier bilan, 24 blessés, dont 5 côté forces de l'ordre, 103 personnes interpellées. Arrestation également de 11 personnes après les dégradations commises sur un péage de l'A50 à la Ciotat dans les Bouches-du-Rhône. La police a précisé qu'aucune ne faisait partie des gilets jaunes alors que 500 d'entre eux s'étaient regroupés samedi à cet endroit. Élu à la tête du Parti communiste français hier lors du congrès d'Ivry-sur-Seine, Fabien Roussel a tendu les bras aux gilets jaunes.
C'est le signal qu'envoient les Français en ce moment par une colère profonde, sincère, qui s'exprime, qui vient de manière spontanée, globalement. Et cette colère-là, si le gouvernement ne l'entend pas, il est à côté de la plaque. Il doit aujourd'hui faire plus que de dire « je comprends ». Il doit le dire « d'accord, on se met autour d'une table et on va augmenter les salaires et les pensions ». La hausse des taxes sur l'essence et le diesel, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ils n'en peuvent plus. Et donc c'est normal que nous portions cette colère avec des propositions concrètes pour le pouvoir d'achat, mais aussi pour relever le défi climatique.
Fabien Roussel avec Virginie Riva pour Europe 1. Emmanuel Macron depuis Bruxelles hier a dit vouloir apporter une réponse claire, je cite, à nos classes moyennes et laborieuses. De nouvelles mesures vont être annoncées dès aujourd'hui en Conseil des ministres. On sait déjà que les péages urbains à l'entrée des grandes villes sont abandonnés. La mesure figurait dans la loi sur les mobilités.
Une victoire sans appel pour le successeur de Manuel Valls à l'Assemblée nationale.
Francis Choix, soutenu par La République En Marche, a remporté la législative partielle dans l'Essonne. 59% des voix contre 41 à la candidate de la France Insoumise. Un scrutin marqué par une très forte abstention. Plus de 82% des personnes inscrites ne se sont pas déplacées.
Il est 7h35.
Les chiffres sont éloquents. En un an, la ligne d'écoute de l'association SOS Homophobie a reçu 37% de témoignages en plus.
Oui, la semaine dernière, Emmanuel Macron a reçu à l'Élysée les principales associations LGBT pour travailler sur un plan d'action. Plan présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. C'est ce qu'a annoncé hier dans le grand rendez-vous sur Europe 1, CNews et Les Échos, Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de la lutte contre les discriminations.
Sur l'année, on a une augmentation des plaintes pour ces faits d'un peu plus de 30%. Ce qu'on observe, c'est que par exemple, la ligne d'écoute de l'association SOS Homophobie, elle explose. Il y a de plus en plus d'appels. Et moi, je crois, en tout cas, les chiffres du ministère de l'Intérieur nous disent que ce n'est pas juste qu'on rend plus visibles ces agressions. C'est vrai qu'on les rend plus visibles, parce qu'avant, il y avait aussi ce phénomène de honte. Et maintenant, peut-être que des victimes, et je voudrais saluer leur courage, les rendent visibles et les publicisent. Mais il y a aussi une véritable augmentation de ces agressions.
Marlène Schiappa sur Europe 1 lors du grand rendez-vous.
L'accord sur le Brexit avec la Première ministre Theresa May qui se démène pour faire accepter le compromis arraché avec l'Union européenne.
Oui, l'accord doit être soumis au Parlement britannique avant Noël. Theresa May réunit ce matin son cabinet avec donc un objectif, convaincre les députés mais aussi les Britanniques que cet accord est le bon.
Dans une négociation, vous n'obtenez jamais tout ce que vous voulez. Je crois que les Britanniques comprennent cela. Quand ils regarderont cet accord, ils verront qu'il est bon pour notre pays et que c'est dans l'intérêt national de le soutenir. Les Britanniques ne veulent plus perdre de temps à se disputer sur le Brexit. Ils veulent un accord qui remplisse les objectifs du référendum et nous permette de tous nous rassembler. Ceux qui s'imaginent qu'il est possible de rouvrir la négociation se trompent. Il y a un accord sur la table. C'est le meilleur accord possible. C'est le seul accord possible.
Un propos recueilli par Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Les sports en football, il fait forcément la une du journal L'Équipe ce matin. Florian Thauvin, auteur d'un triplé face à Amiens, victoire de l'OM 3-1. Les Marseillais s'installent à la 5e place du classement, à 2 points seulement de Lyon, dauphin du PSG. Le champion du monde Florian Thauvin était forcément aux anges hier soir.
Très heureux, on a gagné, j'étais décisif, donc forcément moi c'est une super soirée, on recolle au classement. J'essaie de donner mon maximum pour l'équipe, je suis un joueur offensif donc j'essaie d'être décisif. J'essaie de continuer sur ma lancée de la saison dernière et pourquoi pas essayer de faire mieux. Et après, bien évidemment, on peut faire encore mieux.
Florian Thauvin au micro Europe 1 de Simon Rubin. Notez que Lille occupe désormais la 4e place du classement après sa défaite face à Nice 2-0. Montpellier reste 3e après un nul de partout contre Rennes.
C'était le journal de Céline Kallmann. Bon réveil, bonne journée à tous sur Europe 1.
Europe 1, il est 7h37.
Jean-Michel Apathy, la plus belle avenue du monde a été plongée, on peut le dire, dans le chaos samedi.
Oui, dans le chaos, parce qu'on a vu des CRS et des policiers lutter contre les manifestants. Mais on a aussi vu ces images inédites qui peuvent poser des questions. On a vu des policiers et des CRS sympathiser avec des manifestants. Et ça, moi, personnellement, je ne l'avais jamais vu.
Jean-Michel Apathy sur Europe 1, c'est juste après ça. À tout de suite.
Il est 7h40, Nico Saliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy.
Jean-Michel, on a vu ces images, ces affrontements entre CRS et casseurs, et puis ce paysage de désolation sur les Champs-Élysées samedi dimanche, ça a fait le tour du monde. Mais ce sont d'autres images qui vous ont frappé, Jean-Michel. Des images d'accolades et d'embrassades.
Oui, des images où les policiers, les CRS sympathisent avec les manifestants. C'est exceptionnel. Par exemple, c'était samedi à Paris, hein, toutes ces images sont sur les réseaux sociaux, hein, une colonne de CRS qui passe entre deux rangées de manifestants. Les manifestants, les gilets jaunes, applaudissent les CRS. Et que font les CRS? Ils ont des petits signes de sympathie comme ça pour les manifestants. Coucou!
Et ça, ça vous choque?
Ah, mais moi, j'ai jamais vu le CRS faire ça. Parce que les CRS, si vous voulez, en général, ils ont le casque et puis les manifestants, ils leur tapent dessus plutôt qu'ils leur font des petits coucous. Une autre image qui tourne beaucoup sur les réseaux sociaux, alors en province, samedi, on ne sait pas où, ce sont deux motards de la police nationale. Il y a une centaine de gilets jaunes autour d'eux. Ils descendent de la moto. Ils enfilent leur gilet jaune, marqué police, ils remontent sur la moto et ils sont acclamés de longues minutes par les manifestants qui ont bien compris qu'il s'agit là d'un geste de solidarité. C'est une image assez stupéfiante. Beaucoup d'autres images où des policiers serrent la main de manifestants et on voit qu'il y a une sympathie mutuelle. Et puis, beaucoup d'histoires sur Twitter et sur Facebook, mais là, invérifiables, qui assurent que des policiers en civil profitent de leur jour de congé pour aller bloquer les routes. Mmh. Alors bien sûr, on peut dire que les policiers sont des citoyens comme les autres.
Ça concerne tout le monde, la hausse du carburant, c'est ça. Mais quand ils travaillent, il y a un droit de réserve.
Les policiers, ce sont des fonctionnaires aux revenus modestes, donc ils partagent des préoccupations communes avec les gilets jaunes. Mais en même temps, l'ordre républicain, ça ne se divise pas en tranches de saucisson. Il est évident que la police ne peut pas être, mais pas du tout, pas une minute, du côté des manifestants. La police, elle est là, et si les policiers ne veulent pas, il faut qu'ils fassent autre chose pour appliquer les consignes du gouvernement. Les ordres du
quels que soient les manifestants.
Mais bien sûr, c'est inimaginable qu'il en soit autrement. Alors, au ministère de l'Intérieur, on minimise tout. Toutes les images. Bon, on dit, par exemple, et ils ont raison, hein, ministère de l'Intérieur. J'ai discuté hier soir. Pas un policier n'a pas appliqué un ordre. Tous les ordres ont été appliqués. C'est vrai. Encore qu'on peut s'étonner quand même de la facilité avec laquelle les manifestants ont franchi les barrages samedi matin des Champs-Élysées qui étaient réputés interdits aux manifestants. Mais passons là-dessus. Ce qui est vrai, c'est que ce mouvement des gilets jaunes atypique que nous n'avons jamais vu en France met les institutions à la torture. Ça conteste jusqu'à la légitimité de l'État quand on conteste l'impôt. Eh bien, la police n'échappe pas à cette torture. Et les scènes de sympathie qu'on a vues à l'égard des manifestants étaient des scènes inédites qui peuvent poser problème si elles se renouvellent et si elles se multiplient. Il est temps, vraiment temps, qu'Emmanuel Macron trouve une issue à cette crise. Et ce n'est pas facile parce que cette crise des gilets jaunes pourrait emporter beaucoup de choses avec elle.
Le point de vue de Jean-Michel Apathy, c'est tous les jours sur Europe 1 à 7h40.
Europe 1, il est 7h44, Nico Saliagas.
Dans un instant, retour à Mourinx, près de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, pour rencontrer le maire de la commune, Patrice Laurent. De quoi souffre la France périphérique? Quels sont les symptômes de ces territoires oubliés? Europe 1 à Mourinx, et pour toute la semaine, c'est juste après ça.
Europe 1. Et il est 7h45, les principaux titres à retenir ce matin, Nico Saliagas.
Après des mois de report, le projet de loi sur les mobilités est présenté ce matin en Conseil des ministres. L'objectif est d'améliorer l'organisation des déplacements du quotidien en permettant à chaque région d'avoir un peu plus la main sur la gestion des transports. Le conseil d'administration de Mitsubishi Motors se réunit aujourd'hui à Tokyo. Objectif, révoquer Carlos Ghosn de la présidence après les accusations de fraude fiscale. Et puis Marseille s'est imposé à Amiens hier soir, 3-1, 3 buts signés Florian Thauvin. L'OM est désormais 5e avec 25 points, à 1 point seulement de Montpellier.
Europe 1. Nico Saliagas, vous recevez ce matin le maire de Mourinx, Patrice Laurent.
Bonjour monsieur le maire.
Bonjour.
Alors derrière les images des colères des gilets jaunes, on va essayer cette semaine sur notre antenne de comprendre votre réalité hors les murs, votre quotidien dans la fameuse France périphérique tellement commentée ces derniers jours. Patrice Laurent, vous êtes le maire d'une commune de presque 7000 âmes dans les Pyrénées-Atlantiques. Est-ce que cette colère, vous la ressentez parmi les habitants aujourd'hui ?
Oui, bien sûr, je la ressens ici peut-être plus qu'ailleurs, hein, dans la mesure où... On a des habitants qui ne bénéficient pas de transport en commun, par exemple.
Votre ville n'a pas de gare et pas de bus, c'est ça, hein ?
Il n'y a pas de gare, pas de bus. Il y a une ligne de bus avec Pau, mais pas des fréquences qui permettent de se déplacer pour pouvoir travailler sur Pau ou aller à l'hôpital, par exemple.
Mmh. Donc le prix de la hausse du carburant, c'est un sujet brûlant pour les habitants de Mourinx.
C'est un vrai sujet, hein, d'autant que bien souvent, les gens qui ont peu de moyens avaient fait le choix du diesel, ont des véhicules qui sont parfois usagés, vieux, et qu'ils ne peuvent pas remplacer.
Aujourd'hui, la loi mobilité est présentée en Conseil des ministres. On parle d'un plan pour désenclaver à hauteur d'1 milliard d'euros. Est-ce que c'est suffisant pour vous ? Vous demandez quoi concrètement ?
Alors, moi, j'aimerais avoir des lignes de bus directes avec la ville de Pau, avec des liaisons, des fréquences au moins à toutes les heures du matin jusqu'au soir, par exemple.
Mmh. Ça c'est concret, ça c'est quelque chose que vous demandez, que vous exprimez ce matin sur notre antenne.
Avec un point, hein, c'est vous parliez du plan mobilité. Je lis la presse ce matin, vos confrères de Sud-Ouest, et je vois que le TGV ne viendra peut-être plus chez nous, mais il ira vers Toulouse. C'est une illustration de ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire aider les territoires qu'on appelle magnétiques, hein, où les gens vont, des territoires qui connaissent une croissance. Et nous, qui sommes dans la difficulté, voilà, on est complètement oubliés de ce plan aujourd'hui.
Donc attention au raccourci, attention à la centralisation justement, et être plutôt, pour vous en tous les cas, dans quelque chose qui relève du sur-mesure en fait. C'est ce que vous demandez.
Moi, je demande qu'on aide les territoires qui sont en déprise. Aujourd'hui, il y a deux France. Et c'est la colère des Gilets jaunes. Il y a la France, je vous le disais, des territoires magnétiques. C'est tout le littoral français et les métropoles. Et une autre France, la France, la nôtre, hein, celle des petites communes, où on ne voit rien venir de l'État, où l'État se désengage.
Ouais, pour vous, c'est loin tout ça, en fait. Vous ne vous sentez pas concerné dans votre quotidien, nécessairement ?
Non, pas du tout. Pas du tout.
Rapidement, l'histoire de Mourinx, au départ, ce sont des fermes qui vont se transformer en hameaux, puis une ville dortoir qui va être créée en 58 pour loger le personnel de la zone industrielle du lac. Aujourd'hui, ce sont 65% de logements sociaux. Comment on arrive à mettre de la vie, à mettre un peu d'âme dans le quotidien des Mourinxois, on dit ?
Mourinxoises et Mourinxois. Écoutez, alors hier, c'était une ville dortoir, vous l'avez dit, hein, pour accueillir ce qu'on a appelé les pionniers. Aujourd'hui, c'est une ville qui offre des services. Et nous, notre job, c'est de développer ces services, d'offrir à cette population qui, vous l'avez dit, hein, vous l'avez rappelé, 65% de logements sociaux ont des besoins en termes de santé, ont des besoins en termes de sport, de culture. Ouais. Notre job, c'est d'animer ce territoire.
45% de la population est âgée, monsieur le maire. Vous avez beaucoup de retraités. Comment garder les jeunes ? Comment créer des emplois ?
On a des équipements, on a des manifestations qui s'adressent aux jeunes. Par exemple, sur les enfants, on a un festival de la petite enfance qui s'adresse aux écoles maternelles. Et c'est un vrai festival, comme on pourrait retrouver un festival pour les adultes. Mmh. On vient de rénover l'ensemble des écoles de la ville. On mise beaucoup sur la jeunesse, mais aussi sur les seniors. On vient de créer un service animation senior. Mais la clé de voûte, c'est le travail.
Du boulot.
Les gens... Oui, c'est le travail. La clé de voûte, c'est le travail. Et aujourd'hui, voilà, l'emploi industriel a reculé en France. Nous sommes une terre industrielle. On se place derrière l'Angleterre. Pourtant, on fait des efforts. Hein. On vient d'acheter des terrains. On vient de les nettoyer. On offre des possibilités qui sont très intéressantes aux industriels ici.
On va suivre tout ça cette semaine, Patrice Laurent. Vous êtes le maire de Mourinx, puisque nous avons envoyé nos reporters sur le terrain quotidiennement. On vous donnera la parole pour essayer de comprendre les préoccupations de vos habitants et essayer, plutôt que de juger, juste de faire entendre votre voix. Et vous savez quoi ? Je vais venir cette semaine. On fera une matinale ensemble. Si vous nous invitez, vous nous accueillez. Si vous nous accueillez, on arrive cette semaine. On fera une matinale dans
plaisir.
La semaine.
Ah, c'est super.
En direct de Mourinx dans la semaine et tous les jours sur notre antenne. Merci, monsieur le maire. À très vite.
Merci.
Europe 1. Il est 7h51.
À suivre le Zoom Echo avec Axel de Tarlé. Semaine cruciale pour Renault. Tous les détails dans quelques instants. Et puis cette enquête internationale édifiante. Implant Files qui révèle les lacunes du contrôle des implants médicaux. Les détails dans le journal de 8h avec David Doucan. A tout de suite sur Europe 1, on vous accompagne jusqu'à 9h. Bon réveil.
Continuez à réagir en nous envoyant vos messages avec le hashtag Europe 1. Europe 1. Et il est 7h54, l'heure du Zoom Echo, Nico Saliagas avec Axel de Tarlé.
Réunion sommet cette semaine sur l'avenir de l'alliance Renault-Nissan et puis en France, Renault qui lance un audit interne sur les agissements de son patron déchu, mon cher Axel de Tarlé.
Oui, et la question c'est de savoir s'il n'y a pas eu des malversations en France, hein, puisqu'au Japon on accuse Carlos Ghosn d'avoir perçu des dizaines de millions d'euros non déclarés, mais aussi d'avoir fait acheter par Nissan des villas de luxe et même d'avoir offert un emploi fictif à sa sœur aînée. Alors pour l'instant, en France, on n'a aucune preuve, hein, aucun document qui attesterait de tous ces agissements au Japon. Mais la chute est rude. Hein. Voilà une semaine maintenant que Carlos Ghosn croupit dans une prison avec, dit-on, 3 bols de riz par jour. Il a été démis donc, la semaine dernière de ses fonctions chez Nissan. En ce moment même, pendant qu'on parle, il est très certainement en train d'être démis de la présidence de Mitsubishi, parce que se tient en ce moment un conseil de Mitsubishi au Japon. Et puis alors surtout, cette semaine, au milieu de la semaine, va se tenir une réunion cruciale à Amsterdam de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Donc là, on parle de la tête de l'Empire, voyez, donc qui est aujourd'hui présidée par Carlos Ghosn.
Mais il devrait perdre la présidence de cette alliance.
Eh bien écoutez, alors on va voir, peut-être pas cette semaine, de toute façon à terme c'est inévitable, il va perdre la tête de cette alliance. Et la question c'est qui pour le remplacer ? Parce qu'aujourd'hui, figurez-vous que le président de l'alliance, donc de la tête, est nommé, c'est dans les statuts, par Renault. Et la question est là. Les Japonais vont-ils encore longtemps accepter cette domination française alors que sur le plan opérationnel, ils sont avec Mitsubishi deux fois plus gros. Donc on voit bien le risque réel, hein, c'est que les Français perdent le volant de cette alliance Renault-Nissan-Mitsubishi qui, rappelons-le, est le premier groupe automobile mondial. Évidemment, si le pouvoir part à Tokyo, ce ne sera pas neutre en termes de choix industriels, de choix des pays et de répartition des bénéfices.
Merci Axel de Tarlé pour cette analyse. Dossier à suivre évidemment sur l'Europe 1.
Et à 7h56, on passe à la petite histoire du jour.
Et pendant ce temps, Jean-Philippe Ballas, Loïc Perron.
Ouais, j'aurai jamais assez d'une chronique, les amis, pour vous dire tout le respect, l'admiration que j'ai pour ce grand marin, Perron, qui a terminé hier soir la route du Rhum à bord d'une coquille de noix, un tout petit trimaran jaune, c'était l'un des plus petits de la flotte. Je vous parle d'une réplique fidèle du bateau de Mike Birch, qui avait gagné cette même course, oui, mais il y a 40 ans, à l'ancienne, qu'il a navigué, Loïc Perron, avec un sextant, un sac de couchage et un pot de ricoré pour se faire du bien après la tempête. Old school, oui, mais attention, pas de discours du « c'était mieux avant », non, parce que Loïc Perron était le tenant du titre de cette route du Rhum. Il avait remporté la dernière édition sur l'un de ses navires ultra sophistiqués, on les a beaucoup vus, il connaît tout ça par cœur. Simplement, cette fois, Loïc Perron voulait revenir à l'essentiel, rendre hommage aux pionniers. À 58 ans, il nous a fait un peu un mélange de « Retour vers le futur » et du « Dernier Jedi ». On a vu sa mine buriner, fatiguée hier soir après plus de 3 semaines de course. Il en a bavé, Loïc Perron, c'est sûr. Mais il la joue toujours avec le sourire, sans doute la pudeur des grands solitaires. Parce que vous savez quoi ? C'est pas l'homme qui prend la mer.
C'est la mer qui prend l'homme. Tatatin. Moi, la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mordi. J'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu zone contre une paire de Dockside et un vieux ciré jaune.
La petite histoire qui nous emmène sur l'océan. Un peu de Renault, une belle histoire, beaucoup de courage. Avec vous, Jean-Philippe Ballas, la petite histoire, vous savez quoi ? C'est tous les jours avant 8h.
À suivre le journal de David Doucan, mais tout de suite la météo. Nico, c'est avec Laurent Cabrol.
Dites-nous tout, Laurent Cabrol.
Eh bien, je vais tout vous dire.
De l'air marin, c'est possible pour...
Ah, ben oui.
J'ai commencé la semaine.
Justement, il n'y a pas trop d'air marin en ce moment, c'est plutôt des ondes de terre.
Merci beaucoup.
Mais en fin de semaine, nous en aurons.
Ah, ben voilà.
Je savais bien qu'on y arriverait. Mais aujourd'hui, non, aujourd'hui, franchement, les grands vents se situent près de la Méditerranée. Ce sont des vents de terre, ce sont des vents qui soufflent autour de 100 km/h.
D'accord.
Et qui sont vraiment très dangereux. Donc, ça, c'est quelque chose de sérieux, de plus en plus fort, ces vents d'ailleurs, au fil des heures. Si vous habitez la Lorraine, la Bourgogne, le Centre, la Vallée de la Loire, le Limousin, Paris et Lyon, vous êtes dans des secteurs où on peut appeler cela un temps maussade. Bon, c'est pas énorme comme pluie, mais c'est toujours très gris. Sur la Bretagne, les éclaircies vont arriver. Elles vont gagner dans l'après-midi la Normandie, la Picardie et la Loire-Atlantique. Et puis nous aurons sur le Piémont pyrénéen de grosses pluies, des grosses grosses pluies, autour de 100 km/h également la vitesse des vents. Les températures maximales pour aujourd'hui, nous irons de 4 degrés à Belfort à 17 en Corse, 4 Belfort, 5 Strasbourg, 6 à Clermont-Ferrand-Épinal, 7 degrés à Lille et Paris, 8 à Poitiers, 9 à Toulouse et Lyon, 10 degrés à Caen, 11 à Bordeaux, Brest, 13 à Marseille. Et dans les Cévennes, tiens, si nous fêtions les Cévennes,
ah là, il fait
nous
beau
sommes
là-bas.
Rue des Cévennes.
Et oui.
Eh bien, nous y sommes aujourd'hui pour la première fois. On salue les Cévennes.
Et on salue Julien Doré qui s'y trouve en ce moment.
Ah oui, 15 degrés à Nice et 17 en Corse.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. À tout à l'heure, à suivre juste après le journal de 8h, le point de vue international avec Vincent Herouette. Cap sur Gibraltar, terre de tension entre l'Espagne et le Royaume-Uni, au sujet du Brexit notamment. 8h15, l'interview politique avec Audrey Crespo-Mara qui reçoit la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Vous êtes déjà dans le bus, dans la voiture, vous êtes dans les transports en commun, ça se bouscule. Respirez, on vous accompagne jusqu'à 9h. De l'info et de la bonne humeur. A tout de suite.
Merci d'avoir choisi Europe 1 ce lundi 26 novembre. Et très bon réveil, il est 8h. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
Le journal avec vous, David Doucan, bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Trois titres à la une ce matin.
Quelles sont les causes profondes de la colère ? Europe 1 veut comprendre la France des Gilets jaunes. Nous serons toute la semaine à Mourinx, dans les Pyrénées-Atlantiques. Dans cette ville s'expriment toutes les exaspérations du moment. Emmanuel Macron va-t-il réussir à sortir de l'ornière ? Il s'est exprimé hier depuis Bruxelles, il doit annoncer de nouvelles mesures demain. Comment calmer la révolte, mais sans se coucher, nous faisons le point sur une équation à plusieurs inconnues dans un instant. Et puis, c'est un peu de la France qui atterrit ce soir sur Mars. Une sonde de la NASA transporte un sismomètre de fabrication française. Objectif, mesurer non pas les tremblements de terre, mais les tremblements de Mars.
Europe 1.
6 700 habitants, 65% de logements sociaux, peu de transports en commun et des dizaines de gilets jaunes sur les pare-brises des voitures. Bienvenue à Mourinx, dans les Pyrénées-Atlantiques, une ville où s'expriment toutes les exaspérations. Europe 1 va y passer la semaine avec vous, Théo Manval, parce qu'il faut du temps si l'on veut comprendre. Ne pas pouvoir boucler ces fins de mois, ce ne sont pas que des mots balancés en l'air, Théo, pour les habitants que vous avez rencontrés.
Exactement, quand j'ai demandé à Sandrine sur le parking du terrain de basket pour le match de sa fille ce qui définissait selon elle sa vie quotidienne, le premier mot qui est sorti c'est difficulté.
Du découvert permanent, quand on a nos revenus ça comble le découvert du mois d'avant et 15 jours après on est de nouveau en découvert. Je suis aide-soignante. J'ai un travail, mon mari a un travail et malgré ça on est en train de réduire sur l'alimentation, sur tout ce qui est chauffage parce que les charges deviennent beaucoup trop importantes. Moi j'en suis arrivée à faire beaucoup de choses moi-même.
Vous faites quoi par exemple ?
La lessive de cendres, il faut prendre de la cendre de cheminée et on récupère l'eau de pluie pour faire le moins justement de dépenses et on fait macérer cette cendre, tout ce qui est nettoyant en fait se concentre dans l'eau et ensuite on récupère un liquide jaune et on le met dans la machine. Ça ne me coûte rien alors que la lessive, 7-8 euros une bouteille.
Voilà, il faut faire preuve d'inventivité, d'entraide aussi comme Marilyn, elle est agent immobilier et elle passe tous les soirs chez sa mère 88 ans et une toute petite retraite.
On est obligé d'être présent pour elle financièrement. La nourriture déjà, rien que ça. C'est moi qui me charge des courses, bien sûr. Sinon, à 88 ans, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse ? Dans la rue ?
Quand même, le travail, la pension ne suffisent plus. C'est le cri de colère qui fait fleurir les gilets jaunes sur de très nombreux pare-brises ici.
Merci à vous Théo Manval et donc à demain pour un autre reportage à Mourinx dans les Pyrénées-Atlantiques.
Et l'image David renvoyée ce week-end par le mouvement des Gilets jaunes a été celle de la violence incontestablement.
Oui, parce que des centaines de casseurs mais aussi des manifestants ont des heures durant saccagé les Champs-Élysées samedi. On déplore 24 blessés, 130 personnes ont été placées en garde à vue. Le président de la République est face à la pire crise depuis le début de son quinquennat. Il s'est exprimé hier en marge du sommet européen sur le Brexit à Bruxelles. On l'écoute.
Je pense qu'il n'y a pas de projet de société, pas de projet politique au niveau national et européen si nous n'apportons pas une réponse claire à nos classes moyennes et à nos classes laborieuses. Une réponse économique, sociale, mais également culturelle et de sens.
Alors on entend une réponse claire aux classes moyennes et aux classes laborieuses. D'accord, mais quelle réponse, David ?
On devrait le savoir demain. Emmanuel Macron va prendre la parole longuement pour annoncer de nouvelles mesures. Son entourage parle d'un pacte social d'accompagnement de la transition écologique, mais sans changer de cap. Voilà une équation, Mickaël Darmon, qui semble complexe. Comment le président compte-t-il la résoudre ?
Et effectivement, on a entendu d'ailleurs Emmanuel Macron donner un signal. Le gouvernement ne veut pas bouger sur les hausses de taxes de carburant prévues en janvier. Mais en revanche, selon nos informations, des mesures financières sont à l'étude. Elles porteront sûrement sur des allègements de charges pour les ménages afin de muscler leur pouvoir d'achat. Le Haut Conseil pour le climat, c'est bien, mais trop éloigné des préoccupations quotidiennes. C'est ce qu'ont fait remonter plusieurs élus à l'exécutif ce week-end. Aider les classes moyennes et laborieuses à accepter la transition écologique dont une partie a voté pour le candidat Macron parmi ces gens en 2017. Eh bien, l'enjeu, c'est retrouver cet élan avec les annonces prévues demain. Le chef de l'État donne son avis sur le mouvement de novembre 2018. Il ne le réduit pas à une seule mobilisation de l'extrême droite.
Donc, Mickaël, redonner du pouvoir d'achat mais sans toucher à la fiscalité
absolument,
écologique,
parce que ça, ce serait se coucher. Absolument, et ça, il n'en est pas question. En revanche, il y aura d'autres mesures, très certainement.
Merci, Mickaël Darmon.
8h15, l'invité politique d'Audrey Crespo-Mara sera Muriel Pénicaud, la ministre du Travail.
Et puis c'est un ami de Manuel Valls qui va lui succéder à l'Assemblée nationale. Francis Choix, soutenu par La République En Marche, a gagné hier l'élection législative partielle dans l'Essonne avec 59% des voix contre la candidate de la France Insoumise. Notons tout de même la très forte abstention. 82% des électeurs ont préféré rester chez eux.
On va parler maintenant des implants médicaux.
Oui,
Écoutez bien.
Oui, les prothèses, les pacemakers, les pompes à insuline, elles entraînent parfois des complications. C'est ce que l'on appelle dans le jargon un incident. Eh bien, ces incidents ont doublé ces 10 dernières années. C'est ce que révèle l'enquête d'un consortium international de journalistes d'investigation. C'est tout le système qui est défaillant. Je me tourne tout de suite vers la députée européenne Michèle Rivasi. Vous êtes en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en ligne avec nous, vous êtes une experte des questions de santé. Très concrètement, les implants médicaux aujourd'hui arrivent sur le marché sans avoir été testés?
Ils ont été testés que sur le papier. C'est-à-dire qu'il y a des organismes de certification dans différents pays qui n'ont pas forcément les compétences voulues, c'est même ce que dit la Direction générale de la santé et de l'alimentation, qui ont souvent des conflits d'intérêts parce que ce sont des organismes privés. Plus ils donnent le logo CE, plus ils touchent de l'argent. Donc, c'est absolument pas des organismes publics, vous voyez, qui ont en charge la sécurité et l'efficacité du dispositif médical.
Ça a des conséquences parfois dramatiques sur les patients ?
Ça entraîne des morts. Ça entraîne des gens qui peuvent avoir des allergies à vie. Il y a plus de 800 000 dispositifs médicaux, quand même, qui sont vendus et posés au niveau des gens. Alors, ça va... Vous voyez, du sparadrap jusqu'au pacemaker. Et vous comprenez bien que là, il faut quand même des organismes publics sans conflit d'intérêt pour être sûr que le dispositif médical qui va être implanté chez les gens ait toutes les garanties. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas.
Merci Michèle Rivasi d'avoir été avec nous sur Europe 1 ce matin. Je rappelle que vous êtes députée européenne et spécialiste des questions de santé.
Europe 1.
À suivre dans notre édition de 8h, Europe 1 à Damas, en Syrie. Une attaque au gaz a eu lieu ce week-end à Alep. Reportage dans un instant, à tout de suite.
Europe 1.
Il est 8h08, votre matinale info, Nikos Aliagas.
La suite du journal avec David Doucan et cette nouvelle utilisation de gaz sarin en Syrie.
Oui, mais cette fois, c'est un secteur contrôlé par Bachar el-Assad qui a été touché dans la ville d'Alep. Le drame a provoqué une centaine de cas de suffocation. L'allié russe a effectué plusieurs raids de représailles. Aujourd'hui, le pouvoir accuse la rébellion syrienne d'avoir utilisé, non pas du sarin, mais plutôt du chlore. Le récit de notre envoyé spécial à Damas, Jean-Sébastien Soldaini.
Les habitants de ce quartier d'Alep disent avoir à peine prêté attention à cette explosion et ce n'est que quelques minutes après qu'ils affluent vers l'hôpital, suffoquant, pris de maux de tête, de vertige. Certains sont portés par leurs proches, d'autres arrivent sur des brancards, 107 personnes en tout, soignées avec des masques à oxygène. Les autorités russes alliées de Damas évoquent un obus chargé de chlore. Le pouvoir syrien, lui, désigne des groupes terroristes, appellation qui mêle sans distinction insurgés et djihadistes. Les rebelles pourtant nient être à l'origine de cette attaque quand les groupes liés Al-Qaïda laisse planer un flou, de quoi craindre pour la trêve mise en place en octobre autour de la ville d'Idlib. Un accord trouvé in extremis pour éviter que cette dernière poche de résistance ne subisse le même sort qu'Alep ou la Ghouta, accord régulièrement entaché par quelques accrochages, mais jamais jusque-là par une attaque chimique, une ligne rouge qui pourrait bien remettre l'armée de Bachar el-Assad sur la piste d'une opération de grande ampleur. Damas, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1.
Et par ailleurs, dans un tout autre endroit du monde, la Russie a confirmé avoir capturé 3 navires ukrainiens en faisant usage de la force. Escalade des tensions entre Kiev et Moscou. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira aujourd'hui en urgence.
On va prendre un peu de hauteur, direction la planète Mars.
Oui, la sonde InSight de la NASA doit se poser sur la planète rouge ce soir. Et cocorico, elle transporte un sismomètre conçu par l'agence spatiale française. Un appareil qui vaut plusieurs dizaines de millions d'euros et qui, si tout se passe bien, permettra de mesurer l'activité sismique de Mars. Les explications de notre spécialiste Laure d'Autriche.
Tout va se jouer dans les 7 dernières minutes. Avec la fine atmosphère martienne, le freinage sera très brutal. La sonde sera freinée par un bouclier thermique, puis des parachutes vont s'ouvrir pour l'aider à se poser en douceur. Tout est automatisé, mais l'atterrissage est périlleux. Sur plus de 40 missions envoyées vers Mars, 25 ont échoué. L'opération va ensuite consister à écouter battre le cœur de Mars, à enregistrer les tremblements de la planète rouge. Sur Mars, on a déjà gratté, humé la surface, mais il nous manque des informations sur le cœur de cette planète, précise Philippe Lognonnet, le responsable scientifique de l'instrument français qui a été créé pour cette mission.
On espère à peu près une cinquantaine de séismes par an. Les 10 plus forts nous permettront d'avoir toute l'information qu'on souhaite recueillir. Savoir pourquoi elle s'est éteinte, c'est-à-dire pourquoi il y a 4 milliards d'années, le volcanisme a disparu, les rivières se sont asséchées et Mars est devenue une planète aussi hostile que celle qu'on connaît aujourd'hui.
Le mystère, c'est que Mars est effectivement devenue une planète morte alors qu'au même moment, la vie émergeait sur Terre.
Les explications toujours passionnantes de notre spécialiste espace Laure d'Autriche.
Puisqu'on était un peu dans l'espace, un peu de musique.
Ah oui, avec plaisir.
D'un David à l'autre, de David Doucan à David Bowie. Life on Mars. Merci David.
C'est pas le même niveau quand même.
C'est pas mal.
Allez-y, chantez pour voir. Il est 8h12. Si l'actualité vous interpelle, continuez à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Et coup d'œil maintenant à l'international avec Vincent Hervouet. Nico.
Vincent, hier, les dirigeants européens ont signé le Brexit. Ça y est, un traité de 600 pages pour fixer les conditions du divorce avec une annexe sur Gibraltar, ça a posé problème, ça.
Oui, hier, les Tartuffes ont déploré le Brexit. Et puis, au milieu des têtes d'enterrement, eh bien, le Premier ministre espagnol avait l'air réjoui du gars qui vient de gagner au loto. Il y a toujours un malin qui tire profit de la catastrophe. Le fabricant de cercueils pendant l'épidémie, le syndic de faillite, le crémier qui vend beurre et fromage sous l'occupation. Moins ça va alentour, mieux ça va pour lui. Pedro Sanchez est un de ces profiteurs de guerre. Il espère qu'en lâchant l'Europe, les Britanniques vont aussi lâcher prise sur Gibraltar. Toute la semaine dernière, il a menacé de mettre son veto au Brexit s'il n'obtenait pas un droit de regard sur les relations futures de Gibraltar avec l'Union européenne. Ça fait 300 ans que les Anglais règnent sur le détroit qui sépare la Méditerranée de l'Atlantique. L'intérêt stratégique s'est émoussé, les banques offshore ont remplacé les artilleurs, mais l'Union Jack flotte toujours sur le rocher au milieu des singes en liberté. En se penchant, ils aperçoivent Tanger. Par temps clair, ils observent à l'œil nu les contrebandiers qui trafiquent le cannabis, les cigarettes ou les migrants. Madrid ne s'est jamais consolée d'avoir cédé ses 6 km². Et l'Union européenne avait permis d'organiser le couple à trois avec l'Union européenne, Londres et Madrid et les habitants de Gibraltar.
En fait, la réalité, c'est qu'avec le Brexit, Vincent, tout est remis en cause.
Alors, c'est un vrai casse-tête juridique, comme l'Irlande. Quand on fait un référendum à Gibraltar, les habitants répondent comme un seul homme. Ils n'habitent pas pour rien une ancienne caserne. Ils étaient à 98% contre le Brexit et ils étaient 98% à voter contre leur attachement à l'Espagne. Pedro Sanchez s'en fiche, il est en campagne électorale. Aux Espagnols, traumatisés par la sécession des Catalans, il laisse croire qu'il a reconquis le rocher à main nue, qu'ils vont récupérer Gibraltar, que le royaume sera réuni. Theresa May, elle aussi, est en campagne permanente. Elle jure que jamais le rocher, sa vue et son paradis fiscal ne seront abandonnés. Les macaques en liberté ne sont plus les seuls à faire les singes à Gibraltar.
Vincent Hervouette, acerbe, mais il sait de quoi il parle. Je retiens ces phrases de Vincent. Il y a toujours un malin qui tire profit de la catastrophe. Le fabricant de cercueils pendant l'épidémie, le syndic de faillite, le crémier qui vend beurre et œufs pendant l'occupation. Merci Vincent Hervouette.
Bonne journée.
Europe 1. Et les 8h15.
Après ça, bonne journée. Restez avec nous dans deux minutes. L'interview politique avec Audrey Crespo-Mara. Audrey, vous recevez la ministre du Travail.
Oui, elle est ici pour nous dire que le chômage va finir par baisser. Pas sûr que cela suffise à calmer la colère des gilets jaunes. Muriel Pénicaud, ministre du Travail, sera mon invitée.
A tout de suite sur Europe 1. Bonne journée à tous.
7h, 9h, 2h d'info avec Nikos Aliagas sur Europe 1.
Il est 8h18, Nikos Aliagas.
Et la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, est votre invitée, Audrey Crespo-Mara. Bonjour.
Bonjour Muriel Pénicaud.
Bonjour.
On a lu hier dans le journal du dimanche que le président a trouvé la solution pour répondre à la colère des gilets jaunes. Il va annoncer demain la création d'un haut conseil pour le climat. Créer un comité Théodule pour répondre à la colère populaire, c'est vraiment la bonne solution ?
Alors, je crois que d'abord, ce sur quoi tout le monde s'accorde, c'est qu'il y a une partie de la population, notamment dans les zones éloignées des métropoles, qui aujourd'hui se sent coupée, je dirais, de la dynamique du pays.
Mais vous aviez vraiment besoin d'embaucher des experts pour entendre et comprendre cette colère des gilets jaunes ?
Cette souffrance, cette colère, cette crainte de l'avenir aussi, pour eux, pour leurs enfants. Le président de la République va annoncer plusieurs choses demain. Ce n'est pas à moi de le dire, c'est lui qui les dira.
Donc il y a quelque chose de mieux que le Haut Conseil pour le climat, c'est ça ?
Le Haut Conseil pour le climat, pourquoi c'est important ? Parce qu'on a tous... En fait, c'est le débat entre le court terme et le long terme, et je pense qu'on est tous dans la même vision des choses. On veut tous que nos enfants y respirent mieux, on veut qu'il n'y ait plus 40 000 morts chaque année à cause des particules fines. Donc le combat de l'écologie, ce n'est pas simplement le combat de la planète, c'est le combat de notre vie. Notre vie quotidienne.
Mais on a l'impression que le gouvernement s'inquiète de la fin du monde, alors que la majorité des Français s'inquiète pour ces fins de mois. Et donc, ça illustre un peu le fossé qui sépare les dirigeants du peuple
français. Non, je ne crois pas qu'il y ait de fossé, mais notre responsabilité, c'est avec tous les partenaires de la société civile de trouver la bonne voie de passage. Parce que si on ne fait rien sur le plan écologique, non seulement on aura le problème des fins de mois demain, mais on aura le problème de la santé, on aura le problème de la biodiversité, on aura le problème de l'agriculture. Donc ça concerne tout le monde.
Mais pour répondre à la colère populaire des gilets jaunes que vous dites, écoutez, est-ce que vous ne croyez pas qu'il aurait plutôt fallu créer un haut conseil pour le pouvoir d'achat ?
Alors d'abord, pour les gilets jaunes, je voudrais dire, on parle bien de ceux qui sont, la grande majorité des gilets jaunes, qui sont sincères, qui expriment ce qu'ils ressentent, qui expriment une sorte de cri. Je mets à part les casseurs, les violents, les extrémistes qui en profitent et qui osent attaquer des journalistes, des forces de l'ordre et des citoyens.
Donc, justement,
juste pour qu'on soit d'accord dans les gilets jaunes, les deuxièmes, pour moi, c'est pas des gilets jaunes sincères et la loi doit passer.
Vous avez déploré ces images où vous vous êtes dit c'est un bon moyen de retourner l'opinion des Français contre les gilets jaunes.
Non, je trouve ça inadmissible, cette attaque de la démocratie. Quand on s'attaque aux forces de l'ordre, aux journalistes ou aux citoyens, c'est qu'on attaque la démocratie. Mais ça, c'est la majorité des
gilets
jaunes.
C'est ce que l'opposition dit. Ils ont un peu laissé faire pour essayer de retourner l'opinion française contre les gilets jaunes.
On a préservé le maximum. Vous savez, quand il y a personne, quand c'est des syndicats qui organisent une manifestation, eh bien, il y a des responsables. Donc, on discute à l'avance les conditions pour la sécurité. Là, il y a personne. Et donc, c'est beaucoup plus difficile d'assurer la sécurité. Je voudrais saluer les forces de l'ordre qui ont payé le tribut là-dessus et qui assurent la force de l'ordre sur ce sujet.
Muriel Pénicaud, premier plan des revendications des Gilets jaunes, pouvoir d'achat et emploi. Mmh. Vous sentez-vous personnellement responsable d'une partie de cette colère, vous qui peinez à réduire le chômage en France ?
Alors je crois que sur le chômage, on est dans la bonne direction. On a dit depuis le début, 30 ans de chômage de masse ne se réduisent pas en un jour, mais on est passé de 9,7 à 9,1. 5,5% de chômage dans un an. Et puis on a créé 211 000 emplois nets dans le secteur privé. Mais je voudrais dire surtout que les indices qui sont intéressants, c'est le chômage des jeunes a commencé à baisser.
Le chômage des jeunes,
on est au chiffre de 2010.
Sur l'île de la
Réunion. Aussi,
sur
les seniors aussi.
On va parler des jeunes.
Et les CDI qui ont augmenté de 14%. Donc il y a des signaux positifs.
Mais je voudrais vous emmener sur l'île de la Réunion.
Oui,
vous étiez il y a une semaine, où la contestation ne faiblit pas. Plus de la moitié des jeunes de moins de 25 ans sont au chômage. Des mesures sont-elles prévues pour ce territoire qui est particulièrement désœuvré?
Oui, la Réunion, il y a 850 000 habitants, mais il y a une population extrêmement jeune à la Réunion. Ça peut être une force, à condition que les jeunes puissent exprimer ce qu'ils ont à dire et puis qu'ils puissent prouver qu'ils apportent quelque chose à la société. Sinon, c'est désespérant
mais
pour
eux. Mais qu'est-ce qu'on prévoit pour
donc,
eux comme mesure spécifique?
Il y a effectivement 23% de taux de chômage, un jeune sur deux. Donc, c'est pour ça que j'y suis allée. Et moi, ce qui m'a frappée, c'est que je venais avec les moyens du plan d'investissement compétences, qui sont considérables. On va pouvoir former des dizaines de milliers de jeunes. Avec un plan de développement de l'apprentissage, Didier Robert, le président de région, est complètement d'accord là-dessus.
C'est-à-dire j'ai vu des investissements pour renforcer la formation, l'apprentissage.
La formation et l'apprentissage. Parce que les jeunes sont non seulement très nombreux au chômage, mais leur niveau de qualification est très bas. Ce qui fait que, paradoxalement, la Réunion a 3% de croissance, donc on crée des emplois à la Réunion, mais les jeunes n'arrivent pas à rentrer dans le marché du travail, faute de qualification. Donc c'est plein feu sur la qualification. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs. Je sais que c'est à contre-courant des images qu'on voit, mais j'ai vu des élus locaux, des entrepreneurs, des associations extrêmement engagées sur le sujet des jeunes. Donc moi, j'ai confiance qu'on peut vraiment changer la donne pour une partie significative des jeunes à La Réunion.
Le chômage est aujourd'hui en France de 9,1%. À ce rythme-là, on est loin d'atteindre les 7%, l'objectif que vous vous êtes donné pour la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron.
Alors,
la baisse sur un an et demi.
Mais en fait, ce n'est pas un seul levier qui suffit dans le chômage pour lutter contre le chômage de masse. Il y a ce qu'on a fait dans les ordonnances qui a libéré la crainte d'embaucher des PME. Ça, c'est vu, parce qu'ils embauchent beaucoup plus.
La réforme
ensuite,
du travail,
la
on
réforme,
voit vraiment aujourd'hui ses effets.
La loi, oui. La création d'emplois est beaucoup plus forte. La loi Avenir Professionnel, c'est l'élément majeur parce qu'on va développer l'apprentissage, la formation professionnelle. Or, aujourd'hui, il y a des centaines de milliers d'emplois qui ne sont pas pourvus. Les entreprises cherchent tous les jours quelqu'un parce qu'il n'y a pas les compétences en face. Donc, les demandeurs d'emploi cherchent de l'emploi, mais n'ont pas les qualifications. Pendant que des entreprises cherchent des salariés et ne les trouvent pas. Donc ça, c'est ce paradoxe insoutenable qu'il faut résoudre. Et la loi Avenir Professionnel et le plan d'investissement en compétences pour les plus vulnérables, c'est au cœur de ce sujet. Et puis il y aura la réforme d'assurance chômage qui contribuera aussi. Donc il faut jouer sur tous les leviers.
Vous visez les 7% de chômage en 2022.
S'il n'y a pas de changement géopolitique majeur, parce que ça peut changer les conditions, mais disons à conditions similaires, c'est une ambition très forte, mais nous pensons qu'on peut effectivement être autour de 7% si on continue à faire les réformes de fond.
7% de chômage, n'est-ce pas là la vraie ambition de la France plutôt que les 3% de déficit ?
Il n'y a pas une ambition. Il faut qu'on ait un modèle de développement économique et social qui soit durable. C'est évidemment la lutte contre le chômage. C'est quand même ce que nous rappellent les gilets jaunes. C'est aussi le pouvoir d'achat des plus vulnérables. C'est évidemment le déficit public parce qu'on ne va pas laisser une dette. Laisser la dette. La dette, ce n'est pas une théorie, c'est ce qu'on laisse à nos enfants, c'est-à-dire ce qu'ils devront payer pour même commencer dans la vie à pouvoir faire des choix. Donc c'est un peu comme le climat, la dette. C'est une boule de neige, si on la laisse grossir, c'est nos enfants qui récolteront ça. Mais il faut faire ça, et en même temps qu'à court terme, et c'est pour ça le seul moyen, c'est de travailler ensemble. Je voudrais dire, on a réussi à le faire sur les femmes, faisons-le sur les autres sujets.
Les femmes, justement, vous vous battez pour l'inégalité, contre l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes. Est-ce qu'aujourd'hui, la véritable inégalité salariale, ce n'est pas celle qui oppose les riches et les pauvres? Quand les 10% de Français les plus riches détiennent la moitié des richesses du pays, vous ne croyez pas que c'est là la principale inégalité?
Vous savez ce qui s'est passé le 22 novembre 2018? Très peu de gens le savent, parce qu'il y avait d'autres bruits.
Vous avez présenté vos mesures?
Non, je n'ai pas présenté des mesures. Après avoir travaillé pendant des mois avec les partenaires sociaux, avec une très forte convergence, la plupart des numéros 1 étaient là, on a annoncé comment on allait faire pour réduire l'égalité des femmes et des hommes. Ça, c'est une immense injustice. Il y a 9% d'écart entre les femmes et les hommes pour le même travail. Il y a 25% sur la carrière. Eh bien, c'est ça qu'on est en train de résoudre. Et je pense que la France est en train de prendre une avance. C'est un formidable progrès social. Et on sera, je pense, le premier pays qui résout ce sujet-là. Et là, je peux vous dire que tout le monde est sur le pont. Les partenaires sociaux le sont, les associations le sont. Je suis très confiante de ça. Ça ne s'est pas beaucoup vu la semaine dernière, mais ça va beaucoup se voir.
On n'a pas répondu à la dernière question, mais on n'a plus le temps. Merci Muriel Pénicaud.
Audrey Crespo-Mara pour l'interview politique de la matinale. C'est tous les jours à 8h15.
Europe 1. Et il est 8h26.
À suivre la revue de presse avec David Abiker, la sonde Inside ce soir, Emmanuel Macron demain soir, des atterrissages à haut risque dans la presse ce matin. Autre atterrissage prévu, celui de Nicolas Canteloup. Il arrive avec Julie dans son dans sa nef
dans son sillage.
Et dans son sillage. Attention, gare aux turbulences. À tout de suite sur Europe.
Europe 1.
La revue de presse de David Abicard, mais tout de suite la météo, Nikos, avec Laurent Cabrol.
Laurent Cabrol, température de circonstance en ce mois de novembre ?
Oui, oui, on peut le dire. Hein. Ce ne sont pas les températures mirobolantes, il faut bien le constater. 4 degrés à 17 degrés cet après-midi, et en ce moment entre 3 et 7. Vous voyez, ce sont, je dis, cela, nos amis, ce sont vraiment des températures qui, dans l'ensemble, sont à peine en dessous des normales saisonnières. Il fera 7 degrés à Paris et Lille cet après-midi, à Bourges, Poitiers, Toulouse, Rennes, Lyon, 9. 10 à Caen et 13 à Marseille. Ce qui est moins gai, c'est la couleur du ciel. Ça reste tristouné, il faut bien le dire. Hein. Mais tant pis, on va faire avec, chers amis, puisque ça va commencer un petit peu à s'améliorer sur le sud dès demain. Donc, aujourd'hui, c'est de la grisaille pour presque tous. Si l'on cherche bien, on trouve quelques rayons de soleil en Bretagne. Allez, vive la Bretagne! Et sur le bassin méditerranéen, des vents autour de 100 km/h. Ça a vraiment décoiffé, c'est des vents de nord, nord-ouest. En ce qui concerne le Piémont-Pyrénéen, là aussi beaucoup de vent et beaucoup de pluie. Voilà, pour l'Alsace, la Franche-Comté et Rhône-Alpes, des pluies modérées. Et pour Paris, Lyon, le centre, la Bourgogne, ce sera un temps, disons, d'alternance et sans voir beaucoup le soleil, mais avec quand même alternance d'ondées ou de petites pluies. Merci. Vous voyez, c'est pas très gai.
Merci Laurent Cabrol, mais grâce à vous, ça prend une autre tournure ce ciel.
Respirons.
On se retrouve juste avant 9h.
Nous sommes le lundi 26 novembre, il est 8h31.
7h, 9h, Nikos Aliagas sur Europe 1.
Et tout de suite, on retrouve David Abicard pour sa revue de presse, Nikos.
Avant de retrouver Nicolas Canteloup, David Abicard, bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour Nikos, bonjour Céline et bonjour, bonjour à tous. Ce matin, à la une de la presse, il y a une question qui ne dit pas son nom, qu'il s'agisse d'Emmanuel Macron, qui devra répondre demain à la crise des Gilets jaunes, qu'il s'agisse pour Theresa May de faire accepter le Brexit au Parlement britannique ou pour Donald Trump de se rendre à l'évidence du réchauffement climatique, l'enjeu est toujours le même pour ces grands dirigeants. Et cet enjeu, il est à la une de West France ce matin, avec la sonde InSight, qui doit se poser sur Mars ce soir à 20h47. La sonde InSight, envoyée par les Américains sur Mars en mai dernier et fabriquée en partie à Toulouse, elle va devoir se poser sans casse, se poser au bon endroit, comme un de ces implants qu'on doit installer sur un corps étranger sans dommage corporel. InSight va aussi devoir écouter les profondeurs de Mars, sonder ce que dit la planète profonde. Tiens, tiens. Eh bien, en ce lundi 26 novembre, pour Macron, pour Theresa May, pour Donald Trump, c'est pareil. Il va falloir atterrir et se poser avec autant de précision que la sonde InSight. InSight en français, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire vision. Ça veut dire discernement, connaissance, lucidité, clairvoyance. On en souhaite tout autant à ceux qui nous gouvernent.
Et un peu plus terre à terre ce matin, comment éviter que le virus de la gastro ne se pose sur vous ? Voilà une question qui n'est pas seulement existentielle.
Et le Parisien aujourd'hui en France vous met en garde ce matin contre les débuts ravageurs de la gastro-entérite. Elle touche déjà les Hauts-de-France, le Grand Est, Rhône-Alpes, l'Auvergne. 1 million de Français l'attrapent chaque année, explique ce matin Lucie Fournier du réseau Sentinelle de l'INSERM. Pour s'en prémunir, il faut se laver les mains et préférer une alimentation cuite. Éviter la contagion de la fièvre jaune, c'est aussi l'enjeu de la prise de parole du président de la République demain face au mouvement des gilets jaunes. La balle est dans son camp, titre le courrier Picard, tandis que Denis Domain, dans la Nouvelle République, juge sévèrement sa sortie d'hier à Bruxelles. Le chef de l'État raisonne, disserte, professe à son altitude de croisière, poussant la promesse d'une réponse claire à nos classes moyennes et laborieuses, formule désastreuse selon l'éditorialiste. Dans le journal de la Haute-Marne, Patrice Chabanet reprend ce slogan vu et entendu samedi sur les Champs-Élysées. Ce n'est pas la fin du monde qui nous préoccupe, mais le 15 du mois. Autrement dit, il est urgent d'atterrir. C'est ce que dit en substance le patron de la CFDT ce matin dans Le Parisien. Aujourd'hui en France, pour Laurent Berger, il faut être concret. De nouvelles aides au transport, y compris pour les communes. C'est tout l'enjeu de la loi sur les nouvelles mobilités. Rappel Sud-Ouest, une loi qu'examine aujourd'hui le Conseil des ministres pour encourager les déplacements collectifs.
Sud-Ouest, David, qui s'intéresse au déplacement d'une drôle de bestiole.
Le transport encore, le déplacement du Nemapod, un ver invisible à l'œil nu qui vous grignote en 4 mois un pin maritime, une sorte d'alien qui inquiète beaucoup dans la région forestière de Bordeaux et qui ravage la forêt. Il pourrait venir du Portugal ou d'Espagne et il voyage
écolo, lui. Son moyen de transport, c'est le capricorne, l'insecte. Le capricorne voyage en palette, qui voyage en cargo. Et quand le cargo arrive à Bordeaux, l'insecte va manger des aiguilles de pin. Et c'est comme ça que le Némapode s'en prend aux arbres. Sud-Ouest nous annonce donc des contrôles non seulement en Aquitaine, mais sur tout le territoire. Et puisque je vous parle de voyage, je vais vous parler, grâce aux échos, de l'ultime voyage. Grâce à une équipe de scientifiques berlinois, on sait mieux ce qui se passe dans le cerveau au moment où nous trépassons. Au moyen d'électrodes, ces scientifiques ont observé les neurones quand ils ne sont plus approvisionnés en sang et en oxygène. Eh bien, on vient de découvrir que les neurones se mettent en mode économie d'énergie. Ils font une transition énergétique accélérée. Elle dure 10 minutes pendant lesquelles le cerveau pourrait fonctionner à nouveau sans dommage si la vie revenait. À la fin de cette séquence, les neurones larguent les dernières réserves d'énergie vitale, un peu comme un sapin de Noël dont les lumières s'éteindraient dans une réaction en chaîne, produisant une sorte d'embrasement final. Rien ne dit que cette explosion neuronale corresponde à cette lumière que certains rescapés disent avoir vue, croyant leur dernière heure arrivée. Et puisque ce soir Inside se posera sur Mars, il ne faut pas avoir peur. Puisque ce soir Inside se posera sur Mars, parlons de l'étoile mystérieuse. L'album d'Hergé, la planche de BD originale estimée entre 170 000 et 200 000 euros, n'a pas trouvé preneur ce week-end à l'occasion d'une vente aux enchères consacrée à la BD à Paris. Il s'agit de la planche où Tintin et Haddock prennent le bateau qui vogue sur l'océan vers la fameuse étoile mystérieuse. C'est le moment où le capitaine a invité à sa table des savants qui soudainement tombent malades. C'est pas la gastro, mais prenez quand même soin de vos mains, lavez-les, car l'épidémie approche.
L'épidémie approche. La guerre des étoiles, l'étoile mystérieuse. Vous n'aviez pas de musique ? J'en ai mis une pour vous.
Elle est pas mal.
Non ?
Ah si, si,
c'est bien. Vous auriez aimé.
Mais non, mais non, mais pour annoncer le départ en fanfare de la gastro, je trouve que vous êtes assez inspiré.
C'est sûr, c'est pas mal.
David Abiker, la revue de presse, c'est tous les jours à 8h30.
Europe 1. Et il est 8h36.
À suivre, c'est votre journée coup de fil à la comédienne Louise Bourgoin. La comédienne tient le rôle principal dans la nouvelle série événement ce soir sur Canal+, Hippocrate, inspirée du long métrage. C'est une plongée ultra réaliste dans le monde hospitalier. 8h45, le boss de l'imitation. Mille et une voix, mais un seul talent. Monsieur Canteloup. À tout de suite sur Europe 1. Nous sommes pour commencer cette semaine dans nos nouveaux studios de la rue des Cévennes. Et on vous souhaite une très belle journée. Merci de votre fidélité.
7h, 9h. Nico Saliagas sur Europe 1.
Il est 8h39, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nico Saliagas.
La ministre des Transports, Elisabeth Borne, qui confirme ce matin un plan d'investissement de plus de 3 milliards d'euros, 3,6 milliards d'euros dans les trains du quotidien. La loi sur les mobilités est présentée aujourd'hui en Conseil des ministres. La mobilisation des gilets jaunes se poursuit, des barrages filtrants sont encore signalés. Emmanuel Macron promet, je cite, « vouloir apporter des réponses aux classes moyennes et laborieuses ». Fin de citation. Et puis un mot de football, Marseille s'est imposé à Amiens hier soir, 3-1, 3 buts signés Florian Thauvin. L'OM est désormais 5e au classement.
Europe 1, Nico Saliagas, c'est votre journée.
Chaque matin, on passe un petit coup de fil à celui ou celle qui fait l'actualité. Ce matin, nous sommes en ligne avec Louise Bourgoin. Bonjour Louise Bourgoin.
Bonjour, bonjour Nico.
Vous êtes où précisément
Je suis à la maison de la radio, dans l'entrée avec un café.
Vous êtes chez le concurrent, c'est bien. Mais c'est chez nous, vous êtes en direct aussi. Non, mais tout va bien. D'autant plus que vous êtes en train de faire la promo de la nouvelle série Hippocrate, voilà. qui raconte le quotidien d'interne dans un hôpital. C'est votre première série. Qu'est-ce qui vous a convaincu de rejoindre le projet ?
Le réalisateur, le sujet, le rôle, tout. J'avoue que c'est un vrai cadeau. J'aime beaucoup mon personnage et le réalisateur Thomas Lutti. J'avais adoré son film Hippocrate. Là, c'est pas la suite. C'est une autre idée de l'hôpital avec des personnages féminins et masculins en premier rôle. Alice Belaïdi, Karim Leclouz, Zachary Chasseriou, Anne Consigny, voilà, de grands acteurs.
Donc il y avait tous les ingrédients pour passer un bon moment. Effectivement, le réalisateur est un ancien médecin aussi. Enfin, il est médecin. Le tournage a duré près de 6 mois. C'est agréable, c'est spécial de travailler un rôle de ce type sur la durée ?
C'était passionnant parce qu'en général, quand on fait un long métrage, un film au cinéma, on lit son personnage sur 100 pages. Là, pour une série, c'est 450 pages de personnages détaillés, donc on a fatalement plus d'empathie pour lui. Et on avait 1000 choses à jouer, on a travaillé dans un vrai hôpital avec des infirmiers, des aides-soignants parfois qui travaillaient vraiment, qui nous ont fait part de leur expérience. Mmh. On a appris beaucoup, ça a vraiment changé notre regard sur l'hôpital public.
Qu'est-ce que vous savez faire alors maintenant, Louise Bourgoin? Vous savez faire une prise de sang ou du...
Je sais faire une palpation.
Une palpation? Oui, quel genre de palpation, pardonnez-moi, juste.
Bah, par exemple, vérifier qu'il n'y a pas de phlébite, palpation des jambes chez les personnes âgées, je sais prendre la température, je sais faire semblant de faire une prise de sang, remplir des tubes.
C'est pas mal. Non mais franchement, c'est pas mal, vous avez été initié. Mais pour les termes techniques, il a fallu aussi, j'imagine, apprendre.
Alors ça, c'était difficile parce qu'il ne s'agissait surtout pas de chercher ces mots, il fallait les connaître vraiment par cœur. Et comme c'est très abstrait, mais je les connais encore, hein, figurez-vous, ça m'a marqué. Midazolam, ça me marque.
Non, mais quand on apprend quelque chose, on le garde à vie après. Voilà. Donc c'est une série événement ce soir sur Canal+. Avec vous, Louise Bourgoin, une série qui va faire du bruit. Ça s'appelle Hippocrate, une fiction aux allures de documentaire qui nous plonge dans l'intime et dans l'intimité du monde hospitalier. Merci d'avoir été avec nous. Bon café.
Europe 1. Et il est 8h42. À suivre, Nico Saliagas.
Il arrive pour baptiser les nouveaux studios d'Europe 1. Le père Canteloup. Avec son cortège de voix, il est insortable, mais là, il est bel et bien chez lui, dans le studio d'Europe 1, dans nos nouveaux studios rue des Cévennes. A tout de suite. Bonne journée à tous.
7h, 9h.
Nico Saliagas sur Europe 1. Il est 8h45.
Il baptise notre studio ce matin, Nicolas Canteloup. Il est en place. Et on s'adapte à lui, il est concentré. Attention, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, 0 avec Julie, la revue de presse.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Eh ben, ils sont encore dans le studio, le magnifique studio tout neuf d'Europe 1. Audrey Crespo-Mara et son invité Muriel Pénicaud.
Muriel Pénicaud, est-ce que c'est la bonne solution de créer un haut conseil au climat pour répondre à la colère des Gilets jaunes? Madame, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut identifier la colère des Gilets jaunes qui s'attaque aux forces de l'ordre, journalistes, au pilier de la démocratie. Mais du micro, la formation, c'est la clef en option. Sachez que la réunion, il y a 3% de croissance.
Merde, les gars, ça capte pas. Merde, ça tombe mal. En plus, le jour Arnaud est là, ça coupe pendant que Muriel Pénicaud parle.
Il est en régie, le patron.
Elle n'est pas branchée, je crois qu'il y a un problème de Wi-Fi ou de fibre, quelque chose.
Pas du tout. C'est ma voix normale.
Oula.
C'est votre voix normale. C'est pour ça que le gouvernement n'est pas audible en ce moment, peut-être.
Allez, Nico, on passe au rappel du titre principal de l'actu. Oui, et c'est avec vous.
Oui, le titre principal, c'est l'actu surround du morning. C'est bien sûr ce nouveau studio. Nous vous l'avons dit, répété, ce bond en avant. Formidable d'Europe 1, ce bond en avant. On a quasiment doublé. Oui, on a doublé, je vous le dis, on a doublé par deux. On est passé de 8 à 15.
Comment ça?
Carrément. Oui, on a doublé, non pas en auditeur, on a doublé en arrondissement. On était dans le 8e, on est carrément dans le 15e. C'est la remontada. Et je le dis vraiment avec une grande satisfaction,
c'est
puisque Arnaud. C'est la deuxième grande nouvelle, c'est que Arnaud Lagardère est là. Europe 1 va plus loin et Arnaud aussi. Et oui, Arnaud découvre le 15e arrondissement dans sa ville. Il est allé plus souvent à New York que dans le 15e. Il arbore, il n'est pas à l'aise là. Oui, il n'est pas à l'aise. Laurent Cabrol, je parle. Oui, Arnaud qui arbore un magnifique gilet jaune. Non, c'est un gilet en or, pardonnez-moi. Oui. Mais il a vendu le siège 300 boules, donc il pouvait s'acheter quand même un petit gilet, il faut le dire. Allez, on continue parce que je sens qu'il y a une ambiance tendue dans ce studio. On est toujours tendu, nous on est bien ici. On est rebranché Julie, on a rebranché Julie. On a rebranché son micro, bien sûr. Le micro de Julie, je précise, on est ici, la rue des Cévennes, dans l'ancien siège, chers auditeurs de Canal+, à l'endroit même où Canal+, a fait faillite. Merde, les gars, je crois qu'on a réaménagé dans un cimetière indien.
Merci Nikos. Allez, on va faire un petit point météo avec notre ami Laurent Cabrol.
Pas très drôle, pas très drôle tout ça, ma chère Julie. Moi, je ne cautionne pas tout ce qui a été dit précédemment. Je tiens à rester l'année prochaine. Alors, le dernier congé de fin de semaine a été un peu agité, disons-le. Le prochain s'annonce pas folichon non plus, surtout sur Paris, avec des brouillards sur la zone des des Champs-Élysées. Alors, ce ne sont pas des brouillards matinaux, hein, ce que j'appelle le brouillard lacrymo, hein, plutôt. Hein. Je vous conseille donc le PPP, hein, le PPP, le pavé par précaution. Couvrez-vous, faites attention aux précipitations de pavés. Hein. Les pavés, vous savez, c'est comme... Alors, j'explique à nos auditeurs qui ne sont pas tout à fait au courant, c'est un petit peu nouveau. Oui, c'est comme des grêlons, mais version caillou. Hein, le pavé. Quand ça vous tombe sur la tronche, ça peut faire bobo. Alors voilà, donc, un excellent week-end, enfin, congé de fin de semaine à venir pour nos amis commerçants, touristes. Bref, il n'y a que les vitriers hein, qui rigolent.
Les vitriers et les vérandas.
Ah, c'est Akena,
oui, bien sûr. Vous les vendeurs de vérandas. Hein.
Ce qu'on appelle les vérandeurs.
Oh, magnifique néologisme.
Oui, j'adore.
Merci, Laurent Cabrol. Emmanuel Macron est notre premier invité dans ce nouveau studio. Bonjour Monsieur le Président.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de me recevoir dans ces magnifiques locaux. C'est moderne, c'est un petit peu loin de chez moi peut-être. Avant c'est vrai que c'était pratique, c'était
à
côté.
Oui. Le 8e, oui.
C'est un peu loin de chez... De tout, mais voilà. Comme disait Chirac, c'est loin, mais c'est beau. Mais c'est loin. Mais il est bien votre studio. Vous savez que votre studio, je suis rentré, vos studios me font penser un petit peu à Christophe Castaner.
Ah bon, mais pourquoi ?
Ils sont bas de plafond.
Oh
non, c'est vrai. Non, mais il y a combien de hauteurs sous plafond ? Un petit 1m95, 2m, 2m10 peut-être ? C'est pas haut, sauf peut-être pour Nicolas Barré.
Mais lâchez-le.
Non, mais pour lui, c'est Versailles.
Oui, d'accord. Oh là là.
Mais, comme disent les vendeurs de portables chinois, je dis ouais, ouais.
Alors, Emmanuel Macron, vous avez une nouvelle fois annoncé que vous garderiez le même cap.
Mais oui, il faut laisser les gilets jaunes se manifester, parce que cela va s'essouffler. Je pense que ces manifestations seront terminées avant Noël. Le mouvement s'essouffle déjà, vous le savez. Comme on dit, il faut bien que jaunisse se passe.
Oh,
c'est-à-dire oui, monsieur Allégas, j'ai acheté cette vanne au Black Friday.
Black Friday, ah,
c'était
bien.
Des vannes à moins
70%. Ah bah oui, ça s'entend, oui. Merci Emmanuel Macron.
Vous en prie.
Allez, on va... attendez, on l'a vu tout le week-end aux côtés des gilets jaunes. C'est Jean Lassalle, on passe à Jean Lassalle maintenant. Bonjour monsieur Lassalle.
Ah, bonjour, bonjour. Madame et Julie, monsieur.
Bonjour monsieur Lassalle. Bonjour.
Fille du terroir, monsieur Vicaire. Bonjour. De façon générale, bonjour à tout le troupeau.
Merci.
Alors, comme ça, monsieur Lagas, on change de pâturage.
Oh non.
C'est la transhumance, 8e ou 15e. Hein, la grande transhumance. Comme vos nouveaux locaux sont jolis, je vous apportais comme cadeau pour votre pain des zones de crémaillère, un peu d'alcool de chez moi.
Oula, oula, oula. Voilà. C'est quoi,
la bonne heure.
C'est la liqueur de ragondin. De ragondin séché.
Oh mon
Alors,
Dieu.
La recette.
C'est pour Laurent la recette.
Oui, je vous donne la recette. On écrase le foie, cher Laurent, le foie de ragondin. Mais la subtilité, c'est qu'il faut que le ragondin soit encore vivant.
Nico. Non,
c'est très subtil. On écrase le foie de ragondin vivant, on récupère la bile. C'est un véritable nectar, la bile de ragondin. Et on la fait macérer, la bête, dans un alambic pendant 12 ans. 12 ans, 12 ans, si on veut du 12 ans d'âge. 5 ans, si on veut du 5 ans d'âge.
Calmez-vous, calmez-vous.
Alors, qui en veut ? Monsieur Gabon, lavez la main. Lavez la main, Carole. Oui, venez, incronez ça. Ne bouvez pas tout, Carole. Laissez l'âme pour les hommes.
Alors, monsieur Lassalle, pourquoi est-ce que vous êtes aux côtés des gilets jaunes, dites-nous.
Mais quelle question, Gilles Leclerc. Mais parce qu'ils sont 300 000. Ah. 300 000, et vous le savez, je suis à ce jour le seul candidat déclaré à la présidentielle de 2022. Il ne me reste plus qu'à créer mon mouvement chasse-pêche gilets jaunes. Et je serai demain à l'Élysée Cabrol.
Et quand bien même...
Et vous serez ministre de la cohésion des territoires.
Oh là là.
Vous emballez, hein.
Ça promet. Bon, quand bien même, monsieur Lassalle, on ne se fait pas élire président avec 300 000 voix. Emmanuel Macron a été élu avec 21 millions de voix. Hein, vous êtes
ce que vous oubliez de dire.
Quoi ?
Leclerc, madame Leclerc, pardon. C'est que j'ai un plan.
Ah.
Tout repose sur le droit de vote des animaux que je compte imposer. Si tous les magasins de ce pays votent, les chèvres et les ours et les sangliers, je serai, ou je vous le dis, le premier parti de France.
Eh,
n'en déplaise à certains. Voilà, je le dis.
Bon, allez, à bientôt. Et bonne chance, hein, monsieur Lassalle.
Merci.
Il y a eu 30 blessés ce samedi sur les Champs-Élysées. On revient sur ce chiffre.
31.
Ah, 31.
Madame Julie, 31.
Éric Ciotti, bonjour.
Excusez-moi de vous contredire, je trouve vos studios très hauts de plafond.
Nicolas Faudier est descendu d'un cran de sa chaise.
Je ne comprends pas, je le dis à monsieur Lagardère, pourquoi nous n'optimisons pas les mètres carrés sur ce siège social? On pourrait faire des studios en mezzanine.
Ah non, écoutez, revenons à vous. Vous avez été blessé, Éric Ciotti, samedi?
Tout à fait. Samedi, je me promenais sur les Champs-Élysées pour concomitamment faire mes courses, mes emplettes de Noël.
Ah oui, c'était mal choisi.
Et rencontrer des Français avec qui je pouvais dire du mal de Macron. Bref, une belle journée qui s'annonçait en perspective.
Et vous saviez un gilet jaune?
Non. Et c'est là que le bât blesse.
Ah, alors?
Je portais un gilet orange. Et là, il y a eu une véritable confusion. Mmh. C'est l'origine du drame. On m'a confondu avec un plot de circulation. Les gilets jaunes m'ont confondu et ils m'ont jeté sur les CRS.
Oh non.
Pourtant, j'ai bien précisé au personnel et forces de l'ordre, je leur ai dit, je ne suis pas un plot, mesdames, messieurs. La preuve, j'ai des lunettes.
C'est une preuve.
Ils m'ont quand même jeté dans le camp des CRS. 15-0. Les CRS m'ont renvoyé 15 partout. Je vous la fais courte. Ça a duré 3-7. Comme la Coupe des Villes. J'ai mal. Faites-moi tout à l'heure un petit bisou magique, Madame Julie.
Ah ben d'accord. Ben bon courage, Monsieur Ciotti.
Merci.
Vendredi est sorti l'album posthume d'Alain Bachung. On en a parlé de cet album. Hein, oui. Et on a appris que vendredi prochain sortira celui de Michel Polnareff.
Oh non, non. Je dis assez.
Laetitia.
Je dis assez. Arrêtez, ça suffit, les albums posthumes. Laissez ce pauvre Michel Polnareff reposer en paix, franchement.
Mais enfin, Laetitia Hallyday, il n'est pas mort, Michel Polnareff.
Bon, mais c'est pas grave, alors laissez-le cuver en paix. De toute façon, on s'en fiche. Arrêtez de sortir des albums avant Noël, je le dis. À Noël, il n'y a qu'un seul album à acheter, c'est l'album du Mamour au pays. Mon pays, c'est le flouze.
Oui, non, oui. Non, non, non. Mon pays, c'est l'amour.
Oui. Hein. Je confonds toujours. Bref, il faut l'acheter, l'album.
Je confonds toujours.
Alors, en plus, il faut le dire aux auditeurs, il y a une édition de Noël, Collector, qui sort avec un titre bonus. C'est une bande que j'ai retrouvée.
Oh, Laetitia, arrêtez avec ces bandes, enfin.
Mais non,
on a eu droit au répondeur, au dictaphone de Johnny, enfin, ça suffit.
Mais non, arrêtez. Oh, c'est une vraie chanson.
Ah.
C'est une bande qu'on a retrouvée dans un studio d'enregistrement à Los Angeles.
Mm-hmm.
C'est un duo que Mamour a enregistré avec Michel Polnareff.
Ah, d'accord, bah là on va écouter. Alors.
Ah oui, alors la chanson s'appelle. En fait, c'est la chanson s'appelle Serpillière et c'est tiré de l'album Remets-moi sa petite sœur.
Depuis que tu m'as remis sa petite sœur, je sens que j'ai mal au cœur et ça remue de haut en bas.
Michel, c'est quoi?
Oui, mais je sens que je vais voler. Oh, merde. Laetitia, elle est où la serpillière? La serpillière. La serpillière. La serpillière. La serpillière.
Ah, je m'en lasse pas.
Oh là là.
Ça, c'est Johnny et Michel comme on les aime. Ça me donne une idée, je vais sortir le single où il. La serpillière issue de l'album, reviens-moi sa petite sœur. Achetez sans modération.
Oui, c'est ça. Et on va terminer avec ça. Bah, dites donc, bravo.
Écoutez-le sans modération pour bien commencer la semaine et tous les jours. Nicolas Canteloup et puis à ses auteurs qui sont en régie ce matin, Philippe Cabrévière, Laurent Vassilian, Arnaud Demange,
bravo,
toutes les équipes.
Bravo à tous.
Applaudis par toute la rédaction d'Europe 1, puisque c'est notre première aujourd'hui ici dans nos nouveaux studios rue des Cévennes. Une grande rédaction. Et à la fois les équipes techniques et journalistiques sont sur le pont pour vous informer quotidiennement. Dans quelques instants, à partir de 9h, Wendy Bouchard, le tour de la question au sommaire ce matin.
Mais j'ai une question, comment vous faites rentrer le ragondin dans la bouteille?
Ah, ça c'est un secret de fabrication. On prend le cloaca et on moule la bouteille après. Et je peux vous en parler pendant une heure et demie pendant votre émission.
Écoutez, en attendant quand même, on va
Jean
faire une
Lassalle
petite
pause. Jean Lassalle qui ne s'en va pas.
Merci mon cher Nicolas, pardonnez-moi, c'est l'acte 2 de la contestation des gilets jaunes, la violence, les casseurs qui dépassent le régime de la mobilisation. La réponse d'Emmanuel Macron, elle se fera attendre, c'est demain. Est-ce qu'elle pourra seulement calmer la colère de la rue? Quel rôle et quelle responsabilité des politiques dans cette histoire? Eh bien, je vais vous donner la parole, évidemment, au 39-21. N'hésitez pas à nous interpeller. Et puis, on va vous entraîner dans les coulisses des grandes comédies musicales, cher ami. Grande actualité en la matière. On sera notamment avec Luc Plamondon, 20 ans après la création de Notre-Dame de Paris. Broadway à Paris, dans le 15e, ça vous va?
À tout plaisir, à l'heure, c'est évidemment. Ça vous plaît, Nicolas Sarkozy? Il vous plaisent les nouveaux locaux d'Europe 1?
C'est formidable. Je trouve que j'aime bien ce bleu. Ça me rappelle un certain parti. Je trouve c'est magnifique.
Ils sont assez zen pour vous?
Oui. Vous savez,
open c'est, space.
Ce qui est important, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est ce que vous faites vivre à travers les micros d'Europe 1.
Oui.
Vous savez, c'est la radio, c'est important comme un petit timbre-poste. Ça.
Allez, stop. Merci.
Nicolas Canteloup, vous le retrouvez demain à 8h40 avec Julie. À tout de suite.
Europe 1.
Tout de suite avec Laurent Cabrol, Nikos.
Un petit rappel, Laurent.
Oui, bien c'est une journée au ciel gris pour nous tous, avec quelques petites nuances. Les côtes bretonnes, nous aurons un peu de soleil, ce soleil va gagner légèrement dans l'après-midi la Normandie et le Poitou-Charentes. Nous aurons autre particularité, beaucoup de vent au Piémont Pyrénéen ou sur les Piémonts Pyrénéens, beaucoup de vent sur le bassin méditerranéen. À Paris comme à Lyon, ce sera un ciel gris avec quelques gouttes. Les températures entre 6 et 13 degrés.
Merci Laurent Cabrol, à plus tard, soir.
On revient sur les moments forts de cette matinale, Nikos Aliagas.
L'essentiel de la matinale, ce qu'il ne fallait pas rater, la colère des gilets jaunes qui s'amplifie et le gouvernement qui tente d'y répondre. La loi mobilité doit être présentée ce matin en Conseil des ministres. Une loi très attendue pour les communes dites périphériques, isolées des grandes métropoles, comme à Mourinx, près de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Écoutez le maire de la commune, Patrice Laurent, il était mon invité à 7h45.
Il n'y a pas de gare, pas de bus. Il y a une ligne de bus avec Pau, mais pas des fréquences qui permettent de se déplacer pour pouvoir travailler sur Pau. Le TGV ne viendra peut-être plus chez nous. Et nous, qui sommes dans la difficulté, voilà, on est complètement oubliés de ce plan aujourd'hui. Moi, j'aimerais avoir des lignes de bus directes avec la ville de Pau, avec des fréquences au moins à toutes les heures du matin jusqu'au soir.
La ville de Mourinx, où nous avons posé nos valises pour toute la semaine, pour mieux comprendre, pour mieux écouter, donner la parole aux habitants. Et nous serons d'ailleurs en direct pour une matinale dans quelques jours. À 7h20, on vous emmène à 9000 km de là, dans un autre territoire, en proie lui aussi au malaise social. L'île de la Réunion, complètement paralysée depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Là-bas, plus de la moitié des moins de 25 ans sont au chômage. Écoutez Kevin et Joe, ils habitent des quartiers durs de l'île, de l'ouest de l'île.
Moi, des fois, je fais livrer de pizza. Voilà, c'est au noir et pour survivre, on va dire.
Oui, on cherche du travail. Peu importe le secteur, mais du boulot. Déjà, les entreprises cherchent des gens expérimentés et la Réunion, ils ne donnent pas la possibilité d'avoir de l'expérience, en fait.
Et comment vous faites pour survivre, ou alors, si vous n'avez pas de travail?
Madame, Joe, franchement, vous êtes braconnier. Délire, vol, casse.
Alors face à ce malaise social qui explose, quelle réponse gouvernementale? Justement à 8h15, Audrey Crespo-Mara recevait la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. On l'écoute.
Les jeunes sont non seulement très nombreux au chômage, mais leur niveau de qualification est très bas. Ce qui fait que, paradoxalement, la Réunion a 3% de croissance, donc on crée des emplois à la Réunion, mais les jeunes n'arrivent pas à entrer dans le marché du travail, faute de qualification. Donc c'est plein feu sur la qualification. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que j'ai vu des élus locaux, des entrepreneurs, des associations extrêmement engagé sur le sujet des jeunes. Donc moi, j'ai confiance qu'on peut vraiment changer la donne pour une partie significative des jeunes à la Réunion.
Voilà pour l'essentiel de cette toute première matinale en direct de nos tout nouveaux studios du 15e arrondissement de Paris. Et oui, on a passé 63 années rue François 1er et c'est reparti pour un tour. Un grand merci, un grand bravo à toutes les équipes d'avoir su relever avec brio le défi. Bon lundi à l'écoute d'Europe 1, je vous laisse entre les mains expertes de Wendy Bouchard. Prenez soin de vous et à demain.